Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer.
Alors, conduire la louange dans l'église, ou n'importe où Dieu nous demande. Comment faire pour que les gens arrivent là, hein? Vous pouvez leur mettre un pistolet dans le dos pour qu'ils lèvent les mains. Ou bien, simplement au travers des chants, de la prière, les aider à vivre une louange où ils le vivent eux-mêmes. Parce que je crois que le but, la direction de la louange, c'est aider les gens, mais ce n'est pas faire les choses à leur place. Et ce n'est pas leur dire tout ce qu'ils doivent faire. Alors, la première question qu'on me pose toujours et que je vous pose, qui peut conduire la louange? Qui a le droit de conduire la louange? Et la réponse très simple que je vous donne, tous les adorateurs. Vous savez, des fois, on met des exigences tellement difficiles pour conduire la louange que ça limite et puis personne n'ose le faire. Je crois que la clé, c'est déjà que toi-même, tu saches ce que c'est que l'adoration. Et si toi, tu sais adorer, ça veut dire que tu peux conduire une autre personne dans l'adoration. Hein? Tu ne vas pas conduire quelqu'un si tu ne sais pas où tu vas. Mais si tu vas conduire quelqu'un, si tu sais où tu vas. Donc, quelqu'un qui sait aller dans l'adoration, dans la présence de Dieu, peut conduire un autre chrétien dans l'adoration. Après, c'est une question technique qu'on va gérer. On n'est pas tous appelés à conduire une église avec 500 personnes ou un groupe ou une convention avec 10 000 personnes. Là, il faut une certaine capacité. Mais tu peux conduire un groupe de prière de 5 personnes, de 10 personnes. Si tu aimes l'adoration, tu peux conduire les autres dans l'adoration. Très important. Il faut connaître l'objectif. Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Et à quoi ça sert? Parce qu'il y a des gens qui pensent, ah, il faut choisir des chants. C'est bon, donne-moi le livre de chants, je vais choisir. C'est un peu la loterie à numéro, quoi. Hein? J'aime bien ce chant, celui-là me convient, celui-là je le connais pas, celui-là je l'aime pas, et puis on choisit comme ça, selon ses goûts. C'est pas ça le but. Le but, c'est l'objectif. C'est quoi? L'objectif, c'est que le groupe qui est là adore Dieu. Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais faire pour qu'ils adorent Dieu? Ben, je vais prendre ma Bible, je vais prendre un texte, je vais prendre des chants qui disent certaines choses, et je vais aider les gens à entrer dans la présence de Dieu, dans l'adoration, dans la cible, jusqu'au centre pour adorer Dieu. Donc, il faut savoir adorer soi-même. Ça me semble évident. Ce que je veux dire par là, c'est ne demandez pas à quelqu'un, juste parce qu'il joue de la guitare, de conduire la louange. Il y a des très bons guitaristes qui ne savent pas ce que c'est la louange. J'ai connu une église au Canada, la femme s'est convertie, et dimanche d'après, elle faisait la louange au culte. Dimanche d'après, une semaine. Juste parce qu'ils n'avaient pas de musicien, puis qu'elle faisait la guitare. Et pourtant, cette femme était dans l'occultisme, nouvel âge, et sa vie n'était pas du tout réglée. Donc, qu'est-ce qu'elle va amener comme esprit dans l'église? Un très mauvais esprit. Donc, c'est un manque de sagesse et de discernement terrible. Donc, je préfère avoir aucun musicien, mais avoir quelqu'un qui sait ce que c'est adorer, qui va me conduire. Un ancien, un responsable, quelqu'un qui a de la maturité spirituelle. Donc, il faut être un exemple. Celui qui conduit, il va toujours être un exemple, parce que les gens vont le regarder. Si tu dis aux autres adorer, puis que toi, tu les regardes, ils vont aussi te regarder. Et puis, ça va être juste un échange de regards, mais ça ne va pas être l'adoration. Si tu as dit aux gens adorer, ben adore. Une fois que j'ai dit aux gens ce qu'on va faire, ce qu'on va chanter, ce qu'on va prier, je le fais moi-même. Je suis le premier à adorer. L'exemple est fondamental. Aimer Dieu, ceux qui sont avec nous, pardon. Tu ne peux pas conduire des gens si tu n'aimes pas les gens. Vous voyez, imaginez un guide touristique qui veut emmener des gens visiter une montagne et puis lui, il n'a pas envie d'y aller. On va aller là-bas, c'est difficile, j'ai pas envie d'y aller, c'est lourd, il faut marcher, c'est long, ça sera pas beau, personne veut venir, hein. Mais si le guide, il est emballé, il dit, ça va être magnifique, on va aller faire une belle marche et je vais vous montrer un endroit avec un point de vue et vous allez voir la plaine et les montagnes, tout le monde va avoir envie. Et tu es content de partager ce que tu as. Donc quand tu conduis la louange, si tu dis, oh, c'est chrétien dans l'église, de toute façon, ils aiment pas chanter, ils aiment pas mes chants, j'ai pas envie. Alors, donc, au contraire, dites, je suis content ce matin d'être avec vous. Je vais vous emmener à quelque part qui est merveilleux. On va aller faire un voyage avec le Saint-Esprit dans la présence de Dieu. Waouh! Tu es content. Et tu te réjouis parce que les gens vont vivre quelque chose. connaître nos capacités, nos dons naturels. C'est important, Dieu nous a donné des choses naturelles. Il y a les choses spirituelles, il y a aussi les choses naturelles. Il y a des gens qui ont des dons naturels pour présider, pour parler, pour communiquer. Il y en a d'autres qui n'ont pas du tout ces dons-là. Donc savoir ce que tu es capable de faire, reconnaître. Et des fois, on met des gens à la mauvaise place, au mauvais endroit. J'ai un ami qui est très bon musicien, il joue très bien la guitare, mais dès que tu lui donnes le micro, il ne sait plus parler. Hein? Il dit, si ça ne vous dérange pas, peut-être qu'on pourrait chanter une petite chanson. Ça communique pas, ça. Les gens, ils n'ont pas envie de suivre quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Hein? Faut être précis, faut être clair, dire ce qu'on veut, où on va, ce qu'on fait. Donc, si tu sais jouer de la guitare et c'est ton don, joue de la guitare, puis laisse un autre prendre le micro. Si ton don, c'est d'avoir le micro, tu peux avoir le micro. Et d'autres instruments, et le chant, la danse, il y a beaucoup de choses. Hein? Et n'oubliez jamais, cela s'apprend, comme beaucoup de choses. On est ici pour apprendre à progresser avec Dieu dans la parole de Dieu, dans l'écoute, dans l'étude, mais aussi dans la louange. On peut apprendre aussi le niveau technique, l'instrument, apprendre à progresser. Parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, moi, je sais juste jouer 3 accords, ça fait 20 ans que je les joue, j'ai jamais fait mieux. » Je dis « Mais pourquoi tu n'as pas fait mieux ?»« Parce que j'arrive pas. Tu as essayé ?» Non, tu peux faire mieux. Et je crois que n'importe quel musicien peut progresser, n'importe quel chanteur peut progresser. Moi, j'apprends encore des choses. Ça fait pourtant 30 ans que je fais de la musique. Et quand je suis avec d'autres musiciens, je leur pose des questions. J'essaye d'apprendre, j'essaye de corriger mes dons pour être encore meilleur. Et la même chose au niveau spirituel, au niveau de la présidence. Donc, c'est pour ça que je vais écouter des CD, je vais lire des livres, je vais rencontrer d'autres personnes, je vais apprendre. Donc, si vous sentez que vous êtes appelé à conduire la louange, apprenez à conduire la louange. Faites des séminaires, lisez des livres et creusez le sujet. Vous ne pouvez pas le savoir comme ça instantanément, juste en copiant quelqu'un. Donc ça prend du temps. Quelqu'un venait une fois faire un séminaire de louange avec nous, avec Jeunesse en Mission, il a dit « Je vais faire un séminaire dans un week-end et je veux conduire la louange après dans mon église. Vous allez m'apprendre à jouer de la guitare, à présider et à diriger en un week-end. Hein. » Vous savez que pour bien jouer d'un instrument, il faut plusieurs années. Hein. Pour bien présider, pour être à l'aise dans le spirituel, la même chose, ça s'apprend, ça prend du temps. Donc pas en un week-end. Mais ça commence peut-être par un week-end. Alors les qualités du conducteur de louange, celui qui va nous conduire, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'il doit avoir comme qualité principale? Aimer Dieu, bien sûr, vouloir le servir, ça doit être un désir. On doit sentir ce désir de servir Dieu, pas de se servir soi-même. On est au service du Seigneur. Être appelé avec un don naturel. Moi, je pensais longtemps que je n'étais pas appelé à servir Dieu. Mais quand j'ai compris que par prophétie, mais aussi par parole, de conseils, de mes amis, au groupe de jeunes, de mes pasteurs, de mes anciens, qui m'ont dit, mais tu as un don. Tu as un don pour présider. Tu as un don pour jouer. Utilise-le. Et pendant longtemps, je disais, non, je ne sais pas. Je jouais du piano, puis une fois que j'avais joué, quelqu'un me disait, tu joues bien. Je dis, non, je ne sais pas jouer. J'étais un menteur. Mais je croyais parce que mon insécurité me faisait me cacher derrière mes dons. Hein. Et souvent, on est comme ça, on refuse ce que Dieu nous a donné. La base, c'est déjà accepter ce que Dieu nous a donné et ensuite le mettre à son service. Donc, reconnaissez cela. Travailler les fruits de l'esprit, Galates 5, 22, un caractère éprouvé. C'est-à-dire que quand on exerce un rôle de leader, de conducteur, on doit toujours mettre en pratique les fruits de l'esprit. Hein. Avec les autres. Parce que quand on dirige d'autres personnes, d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres êtres humains qui ont aussi des difficultés, des défauts. Et là, les fruits de l'esprit sont très utiles. La patience, par exemple, la bienveillance, la bonté, la foi. Et toutes ces choses que Dieu nous a données, c'est dans l'expérience qu'on va les expérimenter, qu'on va les tester. Et je pense que c'est très important de demander à Dieu la grâce et d'exercer ses fruits. Être rempli du Saint-Esprit, ça me semble difficile de conduire les gens dans la dimension spirituelle de la louange sans le Saint-Esprit. Alors là, il y a aussi, on peut avoir un grand débat théologique sur qu'est-ce que c'est être rempli du Saint-Esprit. Je laisserai cela à d'autres, mais je pense que vous êtes convaincus comme moi que l'expérience du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit, du parler en langue est fondamentale pour pouvoir être vraiment en connexion avec le Saint-Esprit et diriger les gens dans le Saint-Esprit, dans l'adoration. Être un adorateur soi-même, c'est-à-dire tout seul, sans les autres, sans l'église, sans le groupe de louanges, déjà personnellement. Seigneur, je t'adore, je t'aime, je me lève le matin, je vis ma journée dans la présence de Dieu, mais aussi en communauté. Quand tu es à l'église, quand tu as le temps de louange, comment tu es? Est-ce que tu observes? comme on le disait hier, est-ce que tu regardes, tu critiques ou est-ce que tu adores? Ah, c'est pas mon tour de louer, alors je m'assieds, j'attends. Hein? Il y en a, ils sont comme ça. C'est pas à moi aujourd'hui, alors ils se mettent au fond de l'église, ils croisent les bras, ils attendent que ça soit fini. Mais tu es un adorateur, que tu sois devant, derrière, à côté, dans le groupe, pas dans le groupe, ça change rien. Normalement. Hein? C'est ton cœur doit être le même. Oui?
Ce que j'ai remarqué souvent, c'est que les gens qui dirigent, en fait, on les voit très souvent dynamiques sur la scène et tout, avec la guitare et tout. Et dès qu'ils quittent leur instrument, j'ai l'impression que quand ils tapent, je m'attends à qu'ils soient passionnés, qu'ils soient à fond dedans.
Ouais.
Mais je m'aperçois que c'est le contraire, le plus souvent. Parce que dès qu'ils sont pas. Enfin, je sais pas. Soit ils ne vivent pas la même manière des choses, peut-être qu'il n'y a pas la même dimension quand ils ont leur instrument et tout. Mm-hmm. Et là, quand ils sont derrière, je sais pas.
Mais je pense que ça reflète un problème. Parce que vraiment, le problème, c'est qu'on met notre identité dans ce qu'on fait. Donc quand tu as la guitare, quand tu as le micro, quand tu es devant, tout d'un coup, tu es quelqu'un. Donc tu sais que tu as une responsabilité, tu y vas. Puis tout d'un coup, on t'enlève le micro, la guitare, tu es plus personne. Donc c'est un problème qui est en toi. Donc notre rôle, c'est pas de juger ces personnes, mais de les encourager. Et moi, j'encourage tous mes musiciens, tous mes groupes de louange. Je dis, là, vous êtes sur scène. Maintenant, dimanche prochain, vous n'êtes pas sur scène, mais adorez la même chose, que vous soyez dans la salle ou pas dans la salle. Et j'encourage aussi, certains, ils jouent dans l'instrument où ils ne peuvent pas chanter. Par exemple, c'est plus difficile de chanter en jouant de la batterie, quoique c'est possible. Ou bien tu joues de la flûte ou du saxophone. Mais quand tu ne joues pas, chante. C'est important qu'on chante tous. Parce que quand tu chantes, tu sors quelque chose de tes tripes, quoi. Et tu ne peux pas te cacher derrière un instrument. Et le problème des musiciens, c'est souvent qu'ils se cachent derrière l'instrument. L'instrument, ça les sert à se valoriser et ça leur donne une identité. Donc ça, c'est quelque chose à travailler vraiment. Et c'est pour ça que j'encourage toujours les gens à être adorateurs, adorateurs, adorateurs. Quel que soit leur rôle, leur fonction. Et moi, je l'ai vécu avec des gens à tous les niveaux. Quelqu'un qui a la sonorisation qu'un adorateur, il ne va pas faire la même chose que quelqu'un qui n'est pas adorateur. Il va régler le son tout à fait différemment. Quelqu'un qui a la projection des chants ou au rétroprojecteur, il va le faire tout à fait différemment si c'est un adorateur. Un musicien, la même chose. Un chanteur, la même chose. Donc, c'est un travail, hein. Mais je crois que souvent les gens, ils commencent dans la louange parce qu'ils sont musiciens sans avoir vraiment compris ce que c'est. Et petit à petit, Dieu les travaille et j'espère qu'ils vont comprendre et devenir vraiment des adorateurs en toutes circonstances. C'est une clé, tout à fait. Exercer une autorité spirituelle. Quand tu es conducteur, tu exerces une autorité. Tu ne te mets pas à la place de Dieu, tu es soumis à Dieu, mais en même temps, tu as une position d'autorité. Il faut l'exercer. C'est-à-dire que tu donnes une direction. Une autorité, c'est quelqu'un qui dirige. Donc, il ne faut pas avoir peur de cela, ni honte de cela. Sans abuser, on n'abuse pas du pouvoir, mais on utilise quand même. Je crois que le peuple a besoin d'être dirigé. Et le peuple apprécie d'être dirigé. Mais il faut qu'il soit bien dirigé. Alors, il faut que l'autorité se manifeste. Si quelqu'un est sur scène et dit, « Bon, je ne sais pas si vous avez envie de chanter, peut-être que si vous voulez bien, on pourrait peut-être chanter. » Vous voyez, ça ne marche pas. Hein, il faut être clair. Maintenant, on va louer Dieu. C'est tout simple, ce n'est pas plus que ça. Il ne s'agit pas de faire la police et de dire « Là-bas, j'ai vu quelqu'un qui ne chante pas. S'il vous plaît, levez-vous, chantez. Hein? » On ne va pas faire ça dans l'église. Parce qu'on trouverait toujours des candidats. Hein? Mais il faut quand même dire clairement ce qu'on fait, où on va et pourquoi on le fait. C'est ça l'autorité, tout simplement. Avec respect et amour. Être flexible et souple, ça c'est les qualités les principales que j'essaie d'enseigner à tous mes musiciens, tous mes chanteurs et mes groupes de louanges. Mais surtout celui qui préside et qui dirige, il faut de la souplesse et de la flexibilité parce que les choses peuvent changer. Il faut être prêt à ça. Si tu as ton programme A, B, C et que tu ne changes rien, tu vas très vite être piégé dans ce programme. Parce que tout à coup, les choses ne se passent pas comme tu avais prévu. Tout à coup, il se passe quelque chose dans l'église, dans la réaction des gens, dans la prière, qui fait qu'il faut aller ailleurs. Qu'il y a une parole prophétique, qu'il faut prendre un autre chant, que le chant que tu avais prévu ne va pas maintenant. Il faut réagir de la bonne manière. Ou il faut arrêter le chant, il faut se mettre à prier. Il y a des tas de choses à faire dans le changement. Mais là, il faut avoir la souplesse. Parce que certaines personnes sont rigides, figées dans leur programme, ils n'osent pas. Alors, apprenez cette souplesse, cette flexibilité. Être un exemple, ça c'est très important. Comme je l'ai dit, être adorateur, c'est aussi la même chose. Si toi tu adores, c'est facile de dire aux gens d'adorer. Mais tu dis aux gens d'adorer, mais toi tu adores pas. Ça ne marche pas. Donc, l'exemple va parler encore plus que les paroles. Moi, je dis aux gens d'adorer, et puis après, j'oublie. C'est-à-dire que je me mets à adorer. Je me mets à prier, je me mets à chanter, je ferme les yeux. Alors, il y a des gens qui disent, mais pourquoi tu fermes les yeux? Ça nous met mal à l'aise. J'aimerais que tu nous regardes. Je dis, mais je suis pas là pour vous regarder, vous. Je suis là pour regarder Dieu, moi. Hein? peu importe si vous me voyez ou si vous ne me voyez pas, et même si ça vous met mal à l'aise, alors occupez-vous plus de moi et occupez-vous du Seigneur. Et je pense que c'est très important. Hein? Ce n'est pas un moment où j'essaye d'attirer l'attention sur moi. Je n'ai pas envie que tout le monde regarde. Ah, toi, et puis toi, et puis toi. Et puis, voilà, d'observer chacun, d'analyser s'il ferme les yeux, s'il chante, s'il prie. Je vous laisse libre. Mais moi, j'adore Dieu. Je vous dis, au début, bien sûr, je vais ouvrir les yeux. Hein, je ne vais pas arriver sur scène comme un aveugle avec ma canne, non. Je vais accueillir les gens. Bonjour, vous allez bien? Ce matin, on va louer Dieu. Je vais les regarder. Mais après, on est parti. Voilà, on est parti. Je m'occupe plus. J'adore. Je veux être un exemple pour cela. Être sensible aux autres, ça veut dire tout en adorant Dieu, je suis quand même conscient que je ne suis pas tout seul. Et c'est la différence quand tu conduis la louange dans une église en groupe ou quand tu es tout seul avec Dieu. Si tu es tout seul à la maison, bon, tu fais comme tu veux. Mais quand tu es avec les autres, bien sûr, tu dois tenir compte du groupe, de la chorale, des musiciens, du pasteur, de l'église. Voilà, il se passe des choses. Il y a une différente réaction. Qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine? Il y a peut-être eu un deuil, il y a peut-être eu des difficultés. Donc, on va être sensible à cette situation-là. Ça ne veut pas dire que c'est tout ça qui va nous influencer, mais on va en tenir compte. Et comment les gens réagissent? Tu demandes à tout le monde de se réjouir, d'être dans la joie, et tu vois que tout le monde reste assis et découragé. Tu dis, il y a un problème. Hein? Donc, tu es sensible à la situation. Tu ne vas pas juste avancer sans sentir les choses. Mais tu vas essayer de comprendre et pouvoir ensuite amener les gens plus loin. Voilà, on va continuer. Donc, les qualités du conducteur, on les a vues. Ça va fonctionner. Donc, c'est important de réaliser que, comme toute responsabilité dans l'Église, c'est important d'avoir des qualités. Dieu a donné des dons naturels et puis, ensuite, bien sûr, il qualifie aussi avec des dons spirituels, des choses en plus. Mais Dieu aussi nous donne des dons, des capacités pour les exercer. Donc, c'est important de... Là, vous avez mon ami Rolf Schneider, responsable, qui est un exemple pour moi dans la direction de la louange depuis des années. Et puis, parmi beaucoup d'autres aussi. Mais toutes ces qualités-là, ben, c'est des choses que j'essaye d'exercer et que je vois aussi chez d'autres qui sont un exemple pour moi. Alors maintenant, j'ai cherché dans la Bible quelle est la meilleure image du conducteur de louange. Et celui que j'ai trouvé dans le Nouveau Testament, qui vous surprendra peut-être, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste comme exemple de conducteur de louange. Étonnant, hein? Je ne savais pas qu'il jouait de la guitare. Hein? Non, ça montre que c'est surtout dans ce que Jean-Baptiste a enseigné qui me semble fondamental par rapport à quelqu'un qui conduit la louange aujourd'hui. Voilà ce qu'il dit Jean. Dans Jean 3, verset 30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Ça, c'est un verset qui doit fonctionner pour tous ceux qui conduisent la louange. Il faut que Jésus croisse et que moi qui conduis la louange, je diminue. Parce que ce que je vois des fois, c'est le contraire. Je vois le conducteur qui grandit, qui est beau, qui est fort, qui chante bien, qui montre tout ce qu'il sait faire, puis Jésus diminue, il disparaît presque. C'est presque celui qui conduit qui est plus important que Jésus. Et là, il y a un problème, n'est-ce pas? On est là pour mettre Jésus en avant, pas sa propre personnalité, pas ses propres dons. Et ça, c'est lié aussi dans le monde dans lequel on vit, où les artistes ont beaucoup de place, où les chanteurs deviennent très importants avec la télévision, avec Internet, avec tous les médias. On met en avant des hommes, on fait d'eux des vedettes, mais on appelle même ça les idoles. Hein? Dans les chanteurs, ce sont des idoles, les idoles des jeunes. Et c'est vraiment, ça devient des idoles. Et même dans l'église, sans se rendre compte, on peut mettre en avant des hommes trop haut à la place de Jésus. Waouh, on a telle personne qui va venir chanter dimanche à l'église. Et puis on oublie Jésus. Mais cette personne-là, même si elle est un petit peu connue, elle est là pour mettre Jésus en avant. Donc si elle ne le met pas en avant, il y a un problème. Si Jésus est glorifié, même si elle a un nom connu, c'est très bien. Et ça, c'est mon leitmotiv et j'espère que ce sera le vôtre aussi. Il faut que Jésus grandisse et que je diminue. Et qu'est-ce qu'il a dit aussi? Dans Matthieu 3, verset 3, Jean-Baptiste dit, où il est dit de Jean-Baptiste, « Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe le prophète lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prépare le chemin pour laisser la place à Dieu. C'est le rôle du conducteur de louange. Il prépare la route, mais ce qui est important, c'est que c'est Dieu qui vient de marcher. C'est pas vous qui marchez sur le propre chemin que vous faites, n'est-ce pas? C'est Jésus qui vient, c'est Dieu qui vient et qui se révèle dans ce moment-là. Donc, la plus grande difficulté, c'est apprenez à devenir le plus invisible possible. Il y avait une série télévisée qui s'appelait dans les années 60 L'homme invisible. Je ne sais pas si c'est possible. Hein? Pratiquement, ce n'est pas vraiment possible de s'effacer et d'être invisible. On n'a pas encore trouvé la peinture pour nous rendre invisibles. Mais c'est un état d'esprit, une recherche. J'essaye pas de me rendre visible. Au début, bien sûr, comme je vous ai dit, on accueille les gens, on les salue, on dirige. Mais après, une fois que c'est parti, vous devez essayer de disparaître tout en étant là. Pour que Jésus vienne, pour que le Saint-Esprit prenne la place. Et ça, c'est toute la difficulté. À l'opposition d'un prédicateur ou d'un évangéliste qui va vraiment parler, expliquer, annoncer beaucoup de choses pour que les gens comprennent, là, tu n'es pas en train d'expliquer, tu es en train d'expérimenter. Et ça, c'est la plus grande difficulté pour la personne qui conduit la louange, d'arriver à être là sans être là. Vous comprenez? Et ça, on pourra le voir encore plus pratiquement dans la suite. Comment faire? Parce que c'est difficile. Donc, laissez la place à Dieu. Essayez de vous effacer. Laissez le Saint-Esprit venir. C'est ça quand on conduit la louange. Et Jean-Baptiste, finalement, c'est ce qu'il a fait. Chaque fois qu'on l'a interpellé, qu'on a dit que c'était un grand prophète, il a dit non, il y en a un qui est plus grand que moi. Et c'est Dieu. Si je suis là, c'est pour vous annoncer Dieu. Il a toujours fait référence à Dieu, pas à lui. Il n'a pris aucune gloire pour lui. Et ça, c'est le grand défi. Surtout avec les dons artistiques. Surtout avec le talent. Ce qui frappe les yeux. Parce que vous savez, on est très influencé par la pensée grecque. Les dieux des Grecs, c'était le dieu de la beauté. Chez les Grecs, la beauté était primordiale. La performance était importante. L'art, la présentation, le théâtre, tout ça. Et dans nos sociétés aujourd'hui, on est très influencé encore par ça. On essaye de mettre ça en avant. Alors, pour Dieu, l'art est aussi important, mais tout ce qui est important, c'est à son service. Et ça fait une grosse différence. Parce que les dons, les talents, tu peux faire deux choses. Un chanteur qui chante bien, qu'est-ce qu'il fait avec sa voix? Eh bien, il veut se faire connaître, il veut gagner de l'argent, il veut qu'on l'applaudisse, il veut qu'on achète ses CD, et il veut que tout le monde dise qu'il est le plus beau, le meilleur, le plus fort. N'est-ce pas? Tous les chanteurs, les artistes, les vedettes, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent passer à la télévision, ils veulent qu'on leur parle, ils veulent qu'on leur dise qu'ils sont forts, qu'ils sont beaux. Et dans l'église, quand on fait la louange, c'est pas la même chose. Mais malheureusement, il y a l'exemple, l'influence du monde a beaucoup influencé l'église, et parfois, on essaie de copier. Alors, on prend comme modèle ce qu'on voit dans le monde. On dit, ah, ça c'est un chanteur qui chante bien, moi je veux chanter comme lui. Mais comme je n'ai pas de scène pour chanter, je vais chanter à l'église. Et puis on fait un spectacle, alors que ce n'est pas le but. Je ne dis pas que je suis contre les concerts chrétiens, les spectacles chrétiens, parce qu'il y a des très bons spectacles importants, où là c'est différent. On fait un spectacle pour attirer des gens, pour les inviter, pour présenter l'évangile. C'est avec un but d'évangélisation. Mais quand on fait la louange et l'adoration, ce n'est pas la même chose. Comprenez la différence? Et ça, c'est très, très, très important. Alors, je vais vous donner encore quelques pistes. Après, vous pourrez aussi poser des questions parce que je pense que ça amène pas mal de questions. Comment conduire? C'est la question. Comment est-ce qu'on fait pour conduire? Donc, on utilise cette expression en français, conduire. Donc, je me suis dit, finalement, c'est comme un conducteur. Conducteur de bus. Seulement, on ne conduit pas une petite mobilette. On conduit un bus. Un grand bus à deux étages. Hein? Ça, c'est pas facile. Tu ne conduis pas ça la même chose qu'une petite voiture. Hein? J'ai un ami en Suisse qui avait acheté un bus comme ça de Londres pour l'amener en Suisse. Super, pour organiser des sorties, des excursions, des mariages, si ça va bien marcher. Seulement le problème c'est que le bus il était trop haut et la plupart des ponts dans les villages sont trop bas. Donc chaque fois qu'il voulait faire une excursion, il devait trouver une autre route parce qu'il ne pouvait pas passer. Parce qu'il y a plein de ponts, de chemins de fer, de rivières et c'est très difficile en Suisse de rouler avec un bus comme ça. À part sur l'autoroute, mais ce n'est pas intéressant sur l'autoroute. Hein. Donc c'est surtout sur des petites routes que tu veux promener les gens et là il ne pouvait pas aller. Donc il a dû renoncer à son projet. Donc il faut connaître ton bus, il faut connaître les dimensions, il faut connaître la route pour pouvoir aller. Hein. Alors je vais vous parler du conducteur. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous êtes des conducteurs. Vous savez ce que c'est que d'être conducteur. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être conducteur? Le bon conducteur, il connaît la destination. Si vous allez dans une voiture avec quelqu'un qui ne sait pas où il va, c'est grave. Hein? À moins que vous ayez vraiment beaucoup de temps à perdre et que vous voulez juste essayer la voiture. Mais autrement, vous avez envie d'aller dans un bus ou dans une voiture parce que vous dites, il va dans cette direction et moi aussi. N'est-ce pas? Donc, si vous êtes dans la louange avec un conducteur qui ne va pas dans la même direction que vous, ça va être difficile. Toute l'église veut adorer, mais le conducteur, lui, ne veut pas adorer. Problème. Ou le contraire, le conducteur veut adorer, mais l'église ne veut pas. Problème. Hein? Le conducteur va aller à gauche, mais les passagers veulent aller à droite. Ça va amener une crise dans le bus. Ils vont crier, ils vont discuter, ça ne va pas bien se passer. Donc, il faut savoir où il va, il faut le dire. Voilà où je vais ce matin. Ça, c'est le bus qui va en direction de la gare. Si vous voulez à la gare, vous entrez dans ce bus-là. Si vous voulez pas aller à la gare, c'est pas le bon bus. Hein? Des fois, il y a des gens qui se trompent de bus, mais il y a aussi des conducteurs qui savent pas où ils vont. Et ça, c'est très important. Si tu conduis la louange, tu dois savoir où tu vas. On reprend l'image de la cible, on va dans le centre de la cible, n'est-ce pas? Le bon conducteur, il prépare son bus. Si tu veux que ton bus fonctionne, tu dois le préparer. Donc pour la louange, ça veut dire tu prépares ton instrument, tu prépares tes musiciens, tu prépares la sonorisation, tu prépares l'église, tu prépares la scène, tu prépares les chaises. Il y a plein de choses à faire. Alors peut-être qu'on ne peut pas le faire tout seul, mais il faut se préparer. Le conducteur, s'il sait que le bus il part à 10h de l'arrêt de bus, il ne va pas arriver à 10h02. Il va aller à 10h moins quart déjà, allumer le bus, préparer le moteur, rouler pour être à l'endroit. Donc vous ne pouvez pas conduire si vous n'êtes pas prêt. Moi, j'ai vu dans les églises des gens qui arrivent à 10h moins 5 pour le culte à 10h. Ça ne fonctionne pas. Moi, je viens au minimum une heure à l'avance. Et souvent même plus. 1h30 à l'avance. Pour installer, pour répéter, pour préparer. Et quand je sais que ça doit démarrer, je suis prêt. Et c'est très important d'être prêt. Le conducteur, il connaît son bus. C'est-à-dire qu'il sait le nombre de places qu'il a, il sait le moteur, il sait la vitesse, il sait comment il peut démarrer. C'est quelque chose qu'il maîtrise. Vous ne pouvez pas donner un bus à un enfant qui a jamais conduit un vélo, hein? Ça va être dangereux. Et des fois, dans l'église, on met n'importe qui pour conduire un immense bus. Et c'est pas facile. Donc, on a tous appris à conduire déjà peut-être avec un vélo, ensuite avec une mobylette, puis une voiture, puis peut-être ensuite un camion ou un bus. Mais on grandit. Donc, tout le monde n'est pas appelé à conduire un bus, mais certains peuvent conduire une voiture. Donc, il faut connaître qu'est-ce qu'on est appelé à conduire. Ça veut dire aussi dans la louange, peut-être qu'on peut être appelé à conduire un groupe de prière, un groupe de maison, une cellule, une petite église. Puis d'autres sont appelés à conduire un plus grand groupe et une grande célébration et une grande réunion. Mais tout le monde n'est pas appelé à conduire un camion remorque ou un bus à 3 étages. Hein? Il faut, à 3 étages, je ne crois pas que ça existe, mais à 2 étages déjà. Donc il faut connaître quel est notre appel, quel bus on doit conduire. Le bon conducteur connaît la route pour y aller. Tu veux aller à Lausanne, tu sais la route. Ou si tu ne connais pas la route, tu vas prendre la carte. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des GPS. Tu installes le GPS, au moins. Tu écris l'adresse, parce qu'avec un GPS, tu peux aussi te tromper. Hein. J'ai déjà fait l'expérience et je connais beaucoup qui se sont trompés aussi. Et il y a eu même des accidents avec ça, parce que les gens ont tellement écouté le GPS qu'ils n'ont pas été logiques. Hein. Sur l'autoroute, le GPS disait « faites demi-tour, faites demi-tour ». Et la voiture a fait demi-tour sur l'autoroute. Parce qu'il a voulu écouter le GPS, alors qu'il était, le GPS se trompait aussi. Donc, vous devez savoir où vous allez et comment y aller. Hein. Le bon conducteur se concentre sur son travail. Vous savez ce qui est marqué dans les bus souvent? Un grand panneau, ne pas parler au chauffeur. Parce que le chauffeur, il peut pas conduire, penser au bus, à la direction et en même temps écouter tout le monde. Et dans l'église, des fois, c'est comme ça. Il y a tout le monde qui te donne des conseils. Hein? Tu es là en train de chanter, et puis tu as un autre qui dit, viens, fais ce chant, va plus vite, recommence, fais au début. Et puis tu as un autre musicien qui te dit quelque chose, puis tu as le pasteur qui dit quelque chose. C'est difficile. Il faut que tu puisses te concentrer sur ton travail. Tu aies la confiance des uns des autres, et que tu puisses faire bien ton travail. Donc, je laisse le conducteur se concentrer sur son travail. Je ne vais pas le déranger. Le bon conducteur sait conduire, c'est évident ce que je vous dis. Mais pourtant, vous avez déjà été dans une voiture avec quelqu'un qui conduit mal, hein? Il accélère très vite. Tout d'un coup, il freine. Tout le monde est secoué. Après, il change la vitesse. Il se trompe de vitesse. Ça fait du bruit dans le moteur et tout le monde est secoué. Tu es pas à l'aise. Parce qu'il conduit mal, tu as envie de sortir tout de suite. Alors, moi, pour certains, c'est leur style de conduite. Mais bon, normalement, un bon conducteur sait conduire. Il sait utiliser son moteur. Il sait accélérer. Il sait rétrograder. Et il va le faire correctement. Il va pas non plus tourner brusquement et tout le monde va être renversé dans la voiture ou dans le bus. Hein? Il va ralentir pour pouvoir tourner, pour qu'on soit à l'aise. Ça veut dire que le bon conducteur, il est apprécié des passagers. Normalement. Hein? Et quand tu vas dans un bus avec un bon conducteur, il est tellement bon que tu l'oublies. Tu t'occupes pas de lui. Tu t'inquiètes pas. Tu es dans le bus, toi ce que tu veux, c'est aller à l'endroit. Donc tu parles avec ton voisin, tu discutes, tu regardes le paysage et tu es content. Mais si tu as un mauvais conducteur, tu le remarques tout de suite. Hein? Parce que justement, il te secoue, il te fatigue, il t'énerve. Et excusez-moi la comparaison, mais ça arrive dans l'église aussi. Des fois, on a des mauvais conducteurs de louange et ce n'est pas étonnant que l'église ne rentre pas dans la louange. Et le conducteur va se plaindre, il va dire, oh, ils n'aiment pas chanter, ils ne savent pas louer Dieu, etc. Mais c'est peut-être toi qui conduis mal. Il faut aussi reconnaître ça. Et tu dois peut-être apprendre à accélérer différemment, à ralentir différemment, à tourner différemment et faire attention. Donc, ce n'est pas toujours la faute des passagers. C'est aussi des fois la faute du conducteur. Il faut voir les deux questions quand il y a un problème dans la louange, dans l'église, dans la situation. Un bon conducteur sait faire face aux surprises. Il y a toujours des surprises sur la route. Tout d'un coup, il y a un accident. Qu'est-ce qu'on fait? On fonce? Non, on ralentit. Tout d'un coup, il y a des travaux. Il y a un feu qui n'était pas prévu. On s'arrête. Alors, mais on va être en retard sur l'horaire, on ne va pas y arriver. Ben, c'est possible. Mais c'est mieux de s'arrêter que de causer un accident. N'est-ce pas? Donc, dans la louange, dans l'adoration, quand je conduis, j'ai toujours des surprises. Toujours des situations que je n'avais pas prévues et je dois m'adapter. Et des fois, je dois prendre une autre route. J'avais prévu une route et tout à coup, il y a un détour, il y a un contour, il y a des travaux. Il y a un policier qui me dit, va à droite parce que là, tu ne peux pas aller tout droit. Donc, il y a peut-être le Saint-Esprit qui me retient ou qui me fait changer de direction. Et c'est là que je disais avant, il faut être souple, il faut écouter, il faut savoir changer. Donc, faire face aux surprises, ça fait partie de la vie. Et aussi dans la louange, dans l'adoration. Soyez pas figés par votre programme, mais soyez prêts à faire face aux différentes surprises du Saint-Esprit et aussi aux réalités des hommes et de la vie. Donc finalement, le bon conducteur, il amène la sécurité. Un bon conducteur, un bon président, un bon pasteur, ça peut être dans n'importe quel domaine, c'est la même chose. Mais particulièrement dans la louange. Si quelqu'un il joue bien les chants, il chante bien, tu es à l'aise. Mais quelqu'un qui chante mal, qui chante faux, qui chante trop vite, trop fort, qui crie, qui hurle, qui fait des choses, ça mène un malaise. Hein? Donc c'est important de savoir conduire et de bien conduire. Puis ensuite, il peut se passer toute la suite qui doit se passer. Parce que même si tu sais bien conduire, ça ne veut pas dire que tout sera parfait. Mais au moins, c'est déjà une étape de base sur laquelle on peut construire quelque chose. Et certains sont appelés à conduire et d'autres ne sont pas appelés à conduire. Dans un bus, vous avez 50 personnes. Peut-être sur les 50 personnes, il y a 40 personnes qui ont leur permis de conduire. Mais ils ne sont pas les chauffeurs. Donc il faut respecter le chauffeur. Et ça, c'est insupportable. Quand tous les chauffeurs disent au chauffeur comment il doit conduire. Vous avez déjà été comme ça, hein? Mais non, freine, ralentis, change de vitesse. Pourquoi tu tournes? Va plus vite, va moins vite. Taisez-vous. Laissez-moi conduire. N'est-ce pas? Et comme ça, je peux me concentrer et bien faire. Donc, même si vous êtes aussi des conducteurs, vous allez respecter votre chauffeur. Parce que vous dites, ok, aujourd'hui, c'est lui qui conduit. Demain, ce sera peut-être moi. Mais peut-être demain, je vais aussi faire une erreur. Donc, si je le respecte, il va me respecter. Et ça, c'est la même chose pour la louange dans l'église. Apprenez à faire confiance à celui que Dieu a appelé. Bien sûr, il faut discerner et laisser la bonne personne conduire. On ne va pas laisser, comme j'ai dit, n'importe quelle personne conduire s'il n'a aucune expérience, aucune maturité, s'il n'a pas son permis. Mais s'il a cet appel de Dieu, cette expérience, alors on va le laisser conduire et on va apprécier ça. Alors, quelle qualité pour le conducteur de louange? Oui, question. Pas facile, hein? Pas facile. Si le conducteur n'est pas là, ben il faut trouver un conducteur remplaçant. Dans les transports en public, si le conducteur est malade ou il n'est pas là, on va prendre quelqu'un d'autre. Mais s'il n'y a personne qui sait conduire, on va mettre personne. Dans l'église, des fois, on prend des gros risques. Est-ce qu'on met quelqu'un, on lui donne un gros bus et puis il ne sait vraiment pas le conduire. Donc moi, je préfère dire on va attendre ou on va faire autre chose. On va peut-être prier, on va lire la parole, on va faire... Hein? On peut? Improvisation. Voilà. Ça dépend maintenant de la situation. Si c'est un groupe de prière avec 5 personnes, 10 personnes, tu peux essayer. Et c'est comme ça qu'on apprend. Mais dans l'église, en culte dimanche matin avec 500, 1000 personnes, tu ne peux pas improviser comme ça n'importe quoi. Parce que c'est important ce qu'on fait. Donc si tu montes, si tu improvises, ça veut dire que tu dis, bon, finalement, on peut adorer n'importe comment, allons-y, et puis fais n'importe quoi. Mais je pense que sur un groupe de 500 personnes, il y a sûrement une deuxième personne ou une troisième personne qui a quand même une certaine capacité. Donc, moi, ça m'arrive tout d'un coup, on me demande à la dernière minute. Mais je sais que je suis en confiance avec Dieu, que j'aime Dieu, puis que j'ai assez l'expérience des autres fois pour arriver à prendre au pied levé. parce que j'ai l'expérience. Mais ce n'est pas là que je vais demander à quelqu'un pour la première fois de le faire. Parce que c'est déjà difficile la première fois quand tu es bien préparé. Donc la première fois, si tu n'es encore pas préparé, c'est encore plus difficile. Et ce qui se passe, c'est que tu risques de dégoûter la personne et dire « Ah non, moi je ne vais plus jamais faire ça. » quoi. C'était tellement difficile. Et puis après, les gens viennent lui parler, le critiquer, dire « T'as mal fait ça, t'as mal chanté. » Puis c'est difficile pour la personne. Alors peut-être elle avait un appel là-dedans, mais on l'a lancé dans le bain trop vite. Quoi. Donc il faut y aller doucement. Mais je crois que dans des situations, entre guillemets, de crise ou de surprise, je crois que Dieu va pourvoir trouver la bonne personne. Ne demandez pas à n'importe qui. Mais comme je l'ai dit, n'importe quel adorateur, je préfère que ce soit le pasteur ou un ancien qui préside, même s'il n'est pas chanteur, et puis qui entraîne les gens à prier, à adorer, sans chanter, en parole, en prière, et puis il se passe quelque chose. N'est-ce pas? Il faut vraiment travailler en équipe à ce moment-là. Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que l'équipe de louange prend la forme dans ce domaine-là? Ça veut dire que chacun se prépare.
Exactement.
Mais il y a un responsable du jour. Et au cas où il y a un empêchement, tous sont déjà avertis qu'en cas d'empêchement, ils peuvent agir. Par exemple, là, l'église dans laquelle je fréquente, le conducteur de louange. Tout se prépare en Amen. Cas de défaillance.
Amen.
L'autre prend la relève.
Ouais. Oui, je trouve ça, c'est très très bien. Et il me semble que l'équipe de louange, c'est des gens qui ont compris la louange. C'est pas juste des musiciens. Donc, ouais. Normalement, dans le groupe, tu peux dire, OK, si le responsable n'est pas là, il y a un deuxième ouais. qui est en préparation, qui sait déjà un petit peu le faire. Donc, moi, je sais dans mon équipe que je dis, ah, OK, toi, tu peux le faire. Écoute, je vais être en retard, j'ai un problème avec ma voiture. Commence. Et spontanément, dans le groupe, les autres aussi reconnaissent cette personne comme étant la personne en formation. Donc, dans le groupe de louange, je crois que tous les gens doivent avoir compris ce que c'est la louange et se préparer. Donc, c'est sage de dire, même si ça n'arrive jamais, préparez-les, dites-leur ce que c'est la louange, enseignez-leur la louange, ça veut dire qu'ils vont pouvoir le faire. Et moi, c'est vrai que la plupart des musiciens qui jouent avec moi sont des gens qui conduisent la louange aussi dans leur groupe de prière, dans leur église, dans des plus petits groupes. Ils apprennent et puis petit à petit, ils prendront une fois la responsabilité aussi. C'est bien de former d'autres personnes. Il ne faut pas garder la responsabilité tout seul. Il faut former d'autres. Donc, les qualités du conducteur de louange, c'est un adorateur en toutes circonstances. C'est-à-dire, les circonstances, elles sont toujours surprenantes. Il y a le culte idéal où tout va bien, tout est préparé, tout est comme on voulait. Saint-Esprit a parlé, a dirigé, c'est bien. Mais il y a toujours les surprises. Tout à coup, un jour, il y a quelque chose qui se passe mal. Il y a une corde qui casse à la guitare. Il y a un micro qui tombe par terre, qui ne fonctionne plus. Il y a quelqu'un qui arrive en retard. Il y a quelqu'un qui te dit quelque chose qui n'est pas très approprié. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, c'est pas possible, comment, etc. Tu te mets à te fâcher. Au moment où tu dois adorer, ça va être difficile d'adorer. Hein? Donc Dieu travaille notre caractère. Mais souvent, justement, les circonstances sont contraires. Le dimanche matin où tu dois faire la louange, c'est ce jour-là où ta voiture ne démarre pas. Ou tu arrives en retard, ou tu es fâché. Ou ton fils, il renverse le yogourt sur la chemise blanche. Et puis, il faut vite la changer à la dernière minute. Et tu n'as pas la bonne chemise et tu n'es pas prêt. Et tout ça, ça amène du stress. Et de la fatigue et de l'énervement. Et comment tu vas réagir? Comment tu vas réagir? Et Dieu te teste avec ça. Ok, je vais adorer. Je vais quand même adorer. Hein? Et ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est faire face aux circonstances. C'est faire face à la situation. Et des fois, ça, c'est des détails encore. Hein? Il peut y avoir des choses plus graves qui se passent. Est-ce que je vais quand même adorer? Quelqu'un te téléphone et te annonce une mauvaise nouvelle. Quelqu'un se fâche avec toi. Est-ce que tu peux quand même adorer? Ou est-ce que tu vas renoncer? Je crois qu'on doit tous apprendre. Il y a des fois peut-être qu'on doit renoncer, mais la majorité du temps, on doit pouvoir accepter, dire, OK Seigneur, je vais t'adorer. Et je ne vais pas laisser cette colère prendre la place. Je vais combattre cette colère. Et je vais réagir par l'esprit opposé, un esprit d'adoration, parce que tu mérites l'adoration malgré ces circonstances. Parce quelles sont les circonstances qui nous arrêtent pour adorer? Si on reprend l'exemple de Job, hein, toutes les circonstances qu'il a vécues, il a dit, tu donnes et tu reprends, mais je vais t'adorer. Que ton nom soit béni quand même. Ça, c'est difficile. Et je crois que tous ceux qui conduisent à louange vont être testés à ce domaine-là. Tous. Toujours. Même aussi la même chose pour les prédicateurs. Hein. Le jour où tu prêches, c'est le jour où la semaine la plus difficile qui t'arrive. Hein. Et c'est cette semaine-là que tu dois prêcher. Tu as envie de dire, non, s'il vous plaît, pas cette semaine. Mais c'est trop tard, tu es dans le programme et c'est là qu'on t'attend. Et tu dois faire face aux circonstances et quand même rester dans l'adoration face aux circonstances. Un grand défi pour tous. Je dis aussi que le conducteur, il chante et il ne joue pas seulement. Certains, ils font que de jouer de leur instrument. Mais je crois que c'est important de chanter. Parce que quand tu chantes, tu impliques ton esprit, ton âme. Alors, des fois, techniquement, c'est pas facile. Moi, je me souviens au début que j'ai commencé, j'arrivais pas à jouer du piano et chanter en même temps. Donc, j'ai appris. Parce que j'ai vu que ça m'aidait beaucoup plus. Donc, quelqu'un d'autre chantait, quelqu'un d'autre présidait, et moi, je faisais que d'accompagner. Donc, c'était une chose. Mais j'étais beaucoup plus distant. Et quand j'ai commencé à chanter, j'ai vu que les gens réagissaient beaucoup mieux parce que j'impliquais mon corps, ma voix, ma personne là-dedans. Donc, j'encourage tous les musiciens. Chantez quand vous dirigez la louange, ça va beaucoup vous aider. Je dis aussi des choses très évidentes, mais fondamentales. Il prie, il prophétise, il écoute. C'est-à-dire, faire la louange, c'est pas juste chanter. Vous êtes un être complet spirituel qui avait aussi d'autres dimensions spirituelles. Donc, celui qui conduit la louange, il prie aussi. Laissez pas les autres, seulement les autres prier, priez. Prophétise, c'est-à-dire, vous êtes à l'écoute du Saint-Esprit. Peut-être qu'il y a une prophétie. Ça veut pas dire que chaque fois vous devez prophétiser. Mais s'il y a une parole de Dieu, vous la donnez. Que Dieu vous a donné cette position d'autorité. Et vous écoutez aussi les autres. C'est pas seulement vous qui faites tout. Hein, le problème, des fois, c'est que le conducteur, il prend toute la place. Non. Il y a d'autres gens dans le groupe, dans la salle, qui doivent aussi prier, qui ont aussi peut-être une parole du Seigneur. Donc, vous faites votre rôle, mais avec le corps de Christ, tous ensemble, on écoute. Il s'efface, il se retire. Et à un moment donné, comme je l'ai dit, vous avez plus besoin de parler, et de tout dire, et de tout faire. Vous laissez un peu de la place aux autres musiciens, aux autres chanteurs et aux gens dans l'église aussi. Il y a des gens dans l'église, ils vont attendre vraiment que vous leur laissez la place pour intervenir et dire quelque chose ou prier. Il conduit avec un flot continu. Je crois que ça, c'est une des clés dans la conduite de la louange. Le flot, c'est comme un fleuve, comme une rivière. C'est-à-dire que l'eau, elle coule. Elle ne s'arrête pas. Dans beaucoup d'églises, en tout cas pendant longtemps, c'était un chant, on chante. On se lève, le chant est fini, on s'assied. On s'arrête. On prie, on explique. Maintenant, nous allons chanter le 323. On se relève, on chante et on s'assied. Et finalement, on fait la gymnastique. Hein? Assis, debout, debout, assis. Et on commence et on s'arrête. Et on retombe. Et je crois qu'une des richesses que j'ai découvertes, c'est d'arriver à enchaîner. À laisser vraiment un temps long, prolongé, 15, 20, 30 minutes, où il n'y a pas d'intervention. Il n'y a pas d'arrêt. J'ai même plus besoin de dire le numéro des chants. On laisse les gens chanter. Soit ils ont les chants qui sont projetés, soit c'est un chant facile que les gens connaissent par cœur, ils n'ont pas besoin d'ouvrir les paroles et de rentrer dans une technique. Hein. Et ça, j'ai vu que ça aidait beaucoup les gens à adorer. Parce que tu laisses couler les choses. C'est comme un fleuve, si tu es avec ton bateau sur le fleuve, tu descends le fleuve, s'il y a un barrage, tu es obligé de t'arrêter. Et si tu passes le barrage, l'écluse, après il y en a de nouveau un, et encore un, c'est fatigant. Très fatigant. Mais quand ça coule, tu vas beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Tu as une question?
Mais bon, je vois souvent qu'il y a certains conducteurs, quand ils sont sur le pupitre, automatiquement, ils deviennent des commentateurs. Et plus et aussi, ils ont un esprit moralisateur.
C'est juste.
C'est, ça met mal. Et quand ça commence comme ça, ça te met mal à l'aise.
Voilà.
Tu te démarres vite.
C'est ça.
La chose qu'il veut mener. Mm-hmm. Et ça bloque aussi vraiment tout.
Exactement. Justement parce qu'ils pensent qu'ils doivent intervenir pour chaque chant. Ils pensent que chaque chant, ils doivent l'expliquer. Ils pensent qu'ils sont des théologiens de la louange. Alors ils disent, voilà, nous allons chanter ce chant. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Alors je vous invite vraiment à louer l'Éternel de tout votre cœur. Ils font que de répéter les paroles qui sont déjà écrites et qu'on va chanter. Je dis, tais-toi et chante. Arrête de discuter, arrête d'expliquer. Nous, moi, je suis là pour chanter. Je ne suis pas là pour que tu m'expliques. Ce chant, je le connais depuis 20 ans, je le chante. Tu n'as pas besoin de m'expliquer. Je suis là pour chanter à Dieu. Mais c'est ça le problème de beaucoup de conducteurs, c'est qu'ils ont besoin de justifier ce qu'ils font. D'expliquer, parce qu'ils sont insécurisés, et ils ont de la crainte, et ils expliquent chaque chose. Et chaque fois, ils arrêtent, et toi, tu es avec Dieu en train de prier, et tout d'un coup, ah, qui c'est qui me parle là? Ah, tu arrêtes, tu écoutes, tu dis, bon, c'est bientôt fini, je veux adorer. Tu recommences à adorer, et tout d'un coup, il t'arrête de nouveau, il t'explique de nouveau. Arrête d'expliquer les choses, vis les choses. Il y a le moment de l'enseignement, il y a le moment du message. Là, on peut parler, on peut expliquer tout ce qu'on veut. Là, je vous enseigne sur la louange, je vous explique tout ce que je veux sur la louange. Mais quand on vit la louange, je ne vais plus rien vous expliquer, je vais le vivre. Alors, certaines personnes ne sont pas à l'aise, parce que justement, on ne leur a rien expliqué, puis ils sont habitués à ce qu'on leur explique tout. Mais moi, je ne veux pas des bébés. Je veux pas des enfants, c'est pas l'école enfantine. À l'école enfantine, on les explique aux enfants tout ce qu'ils doivent faire. Mais à l'église, j'espère que les gens vont avoir de la maturité, qu'ils sont des adultes, et je veux leur donner de la maturité. Donc, je les laisse avec Dieu. Je ne veux pas prendre la place de Dieu pour leur dire comment ils doivent faire, pourquoi ils doivent le faire, à quel moment ils doivent le faire. Je donne quelques indications simples, mais après je laisse couler. Certains, ils ne sont peut-être pas à l'aise sur la pirogue, sur le fleuve, parce que ça bouge. Ils aimeraient mieux s'arrêter et descendre, mais maintenant ils sont dans le bateau, il faut se laisser couler. Et comme ça, ils vont s'habituer. Au bout de 10 fois, 15 fois, tu t'habitues, tu n'as plus peur, tu es à l'aise. Mais quelqu'un, c'est vrai qu'il s'arrête tous les 10 mètres, bon, il se rassure, mais il n'avance pas, il ne va pas loin. Donc notre but, c'est d'amener les gens très loin de la présence de Dieu. Donc il faut que ça coule, il faut que ça continue, il faut que ça avance. Tu as une question ? Je crois que la prière peut être dans le flot. Ça dépend comment tu l'expliques et comment les gens prient aussi. Mais c'est clair que si les gens ne savent pas ce que c'est l'adoration, ils commencent à prier pour la grand-mère qui est malade, et prier pour le frère qui n'est pas là, etc. Ce n'est pas de la louange. Maintenant, ce n'est pas l'intercession. On est dans l'adoration. Et je vous invite. Moi, je corrige les gens. Je les reprends. Surtout au début. Après, ils ont compris, ils ne vont plus faire. Mais souvent, c'est le début qui est la clé. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme dans le bus. Je dis aux gens, je vais à la gare. Puis il y a des gens, ah, mais moi, je voulais aller là. Ok, alors tu t'es trompé de bus, soit tu descends, soit tu restes dans le bus. Mais ce bus-là, il va là. Il va dans la présence de Dieu. Et on n'est pas là pour aller ailleurs. Alors, il faut enseigner les gens. Mais après, et moi je travaille sur l'église, pas sur un dimanche. On n'arrive pas toujours sur un dimanche, mais sur plusieurs mois, plusieurs années. Au bout d'un moment, les gens, ils comprennent parce que tu leur enseignes, tu leur dis les choses. Et puis, ils vont aller avec toi. Donc, ceux qui interrompent le flot, je leur explique. Je vais peut-être les corriger après le culte. Ou même pendant le culte, si la prière, si je dis on va adorer, et puis que j'entends trois personnes qui intercèdent, j'arrête la deuxième et je dis, dès qu'elle a fini, je respecte, je lui dis, ok, on va rester dans l'adoration. Je ne vais pas faire une reprise publique mal à l'aise, en disant, madame, vous vous êtes trompée, ce n'était pas juste. Non, je dis simplement, restons dans l'adoration et on revient de l'adoration. Et puis voilà, et puis la prochaine personne, elle a compris, elle prie dans l'adoration, et après je prends un chant d'adoration et on continue. Il ne faut pas avoir peur de corriger, c'est ça le but du conducteur justement, de reprendre le chemin. Et si on a fait un petit détour, on reprend le chemin. On ne va pas se laisser détourner par une personne parce qu'on n'ose pas lui dire quelque chose. C'est très important ça. Tu as une question ?
Parce qu'à propos du flow continu, là, je pense qu'en dirigeant, comme vous l'avez dit, il y a le Saint-Esprit qui est en fait. Il faut laisser aussi expérimenter ça. Il y a parfois, on participe à ces séances de manche à les gens même sont poussés de prier comme ça, ils sont touchés, ils commencent à prier. Je pense que c'est bien de laisser l'assemblée au lieu d'interrompre tout le temps. Et vous avez dit aussi que c'est comme un conducteur de bus. Quand un conducteur de bus parle l'autre, beaucoup, c'est pas aussi conseillé, il risque de faire un accident. De parler ce qu'il ne faut pas parler. Les gens sont. L'Esprit de Dieu est en train de parler de ça. Peut-être que lui donne d'autres dispositions négatives, ce que les gens ne sentaient pas. Donc il faut que tu. Donc quand on dirige, et laisser l'Esprit Saint toucher les cœurs des gens. Au moment d'amener ces gens à Dieu, alors il faut qu'ils les laisser parler avec, faire contact avec ce Dieu.
Exactement. On met les gens face à Dieu. Ce n'est pas nous qui avons toute la responsabilité de tout gérer. À un moment donné, on laisse, mais en même temps, on laisse les gens avec Dieu, pas avec nous-mêmes. Donc, si on leur dit tout ce qu'ils doivent penser, comment ils doivent le penser, etc. Il y a des gens, ils dirigent d'une manière négative. Ils commencent comme ça. Alors, ce matin, je sais que la semaine a été difficile, que vous avez vécu des moments durs, que c'est dur sans Dieu, mais maintenant, on va se rapprocher de Dieu. Enfin, c'est le moment du culte. Oui, c'est dur la vie, etc. Et pourquoi? Peut-être certains ont eu la vie dure, mais il y a aussi d'autres qui ont eu des bons moments. Pourquoi mettre tout le monde négatif, hein? Et puis les mauvaises nouvelles, on les entend toute la semaine, à la radio, à la télévision, dans les journaux, les voisins et tout le monde. À l'église, tu viens pour entendre une bonne nouvelle, pas une mauvaise nouvelle de plus, hein? On est là ce matin parce que Dieu est là. Amen. Dieu est présent, Dieu nous aime. On va s'approcher de lui. Vous apportez quelque chose de positif, pas encore du négatif. Les gens, ils viennent déjà découragés, déprimés. Est-ce que je vais pouvoir louer? Peut-être que Dieu va me parler. Je ne sais pas. Il faut les enthousiasmer avec Dieu, les encourager avec Dieu. Pas les décourager, ils sont déjà assis tout seuls. Et le diable fait déjà ça tout seul. Donc, il ne faut pas que le conducteur de louange les aide encore là-dedans. Hein? Voilà. Lui-même, il est accusé par son travail, il est oppressé, puis il n'est pas à l'aise. Alors que si tu es appelé à conduire, tu dois être à l'aise. Le Seigneur t'appelle, il va te donner la force et tu vas encourager les gens parce que Dieu t'a appelé à ça.
Sans demander quelque chose. Surtout si on fait la pratique et qu'on dit qu'on va louer seulement Dieu l'un après l'autre, il y a des gens qui vont toujours.
Alors on va les enseigner, ces gens-là. Il faut les enseigner. C'est vrai, il y a des gens, ils ne savent pas dire merci, ils ne font que de demander. Mais ils restent des enfants toute leur vie. Comme un petit enfant, il va tout demander à ses parents parce qu'il n'a rien, il ne sait pas faire tout seul. Mais son père va lui dire, maintenant tu es grand, tu vas chercher tout seul. Tu bouges. Tu ne vas pas rester là tout le temps à genoux devant moi pour que je te donne à manger dans la bouche. Tu prends la cuillère et tu manges. Tu vas chercher le légume dehors. Tu vas aller au marché, tu vas aller acheter. C'est ça la croissance. Donc dans l'église, on ne va pas garder des bébés, on va grandir. Donc l'adoration va aider les gens à grandir si on les responsabilise. Mais si on fait tout à leur place, si le dimanche matin, c'est les bébés qui viennent, qui ouvrent la bouche, qui attendent qu'on leur donne la cuillère, c'est très facile. Celui qui conduit, il peut toujours leur dire, je vais vous dire ce que vous devez faire. Comment vous devez le faire? Et quand beaucoup de conducteurs de louanges, ils font ça. Ils disent, maintenant on va chanter. Maintenant on va prier. Maintenant on va se lever. Maintenant tapez dans les mains. Asseyez-vous, debout, assis, couchez, couchez, debout, assis, levez, chantez. Mais ça, c'est le service militaire. Hein? C'est l'adjudant qui dit tout ça. Et ça ne m'intéresse pas. J'ai fait l'armée, je sais ce que c'est. L'église, c'est pas ça. Hein? L'église, c'est pas dire tout ce qu'il doit faire. C'est là, on a un espace devant Dieu. On est tous les enfants de Dieu. Qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? Dites-le lui. Puis Dieu nous aime. Et puis on donne une direction. Et puis ensuite, on laisse les gens passer. Et puis si ça se passe mal, ben on enseigne, on apprend, on corrige. On amène les gens devant Dieu. C'est pas devant nous-mêmes. Parce que nous, on n'a pas la solution à tout le monde. Même le pasteur, le meilleur, même celui qui a les meilleurs messages du monde, il n'a pas la solution. C'est pas lui le sauveur du monde. C'est Jésus le sauveur. C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui guérit. Donc on amène les gens devant Dieu. Et ça, c'est une clé. Il faut vraiment qu'ils se trouvent face à Dieu, pas face à vous-même. Donc, tous les chants, les thèmes, va les amener là-derrière. Une autre question.
Oui, moi, je ne sais pas si le travail se situe seulement au niveau du dirigeant de la louange, parce qu'il y a tout ce qu'il y a derrière le pasteur, la manière dont l'église fonctionne, et je pense que c'est depuis ce niveau-là qu'il faut faire le changement pour que l'Assemblée puisse comprendre qu'il peut aller vers Dieu, qu'il peut avoir cette relation intime avec Dieu.
Amen. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon frère. Il y a un travail de groupe. Comme j'enseigne sur la louange, je me concentre sur ce point-là. Mais bien sûr que même si tu as le meilleur conducteur de louange, parfait, super spirituel, qui connaît Dieu, qui fait ça depuis des années, si l'église veut pas adorer et sait pas ce que c'est, ça va pas marcher. Donc moi, ce que je dis beaucoup aux pasteurs qui m'invitent, aux églises, je dis, écoutez, il faut enseigner l'église. Quand est-ce que la dernière fois vous avez parlé de la louange à l'église? Je me souviens pas. Vous avez jamais parlé de ça? Ben non. Alors, les gens pratiquent la louange, c'est-à-dire qu'ils chantent, mais ils savent même pas pourquoi ils chantent. Ils savent pas pourquoi ils adorent. Ah bon, parce qu'on est chrétien, on doit chanter. Ils sont habitués, ils sont venus dans l'église, ils ont vu qu'on chantait tout le temps, donc ils sont habitués à chanter, ils aiment les chants, ils connaissent les mélodies, mais ils vont pas au fond des choses. Ils restent même à l'extérieur de la cible. Ils observent la louange, mais ils vont pas au fond. Donc, il faut enseigner toute l'église. Alors, ensuite, quand l'église est enseignée, il faut aussi un bon groupe de louanges, donc tout va ensemble. Et il faut aussi que le pasteur soit d'accord, il laisse la place. Et donc, tout le monde doit avoir compris ça. Ça, c'est clair. Et des fois, malheureusement, je suis triste de dire ça, mais certains pasteurs, ils n'ont pas compris ce que c'est la louange et l'adoration. Et puis, ils laissent le minimum de temps parce qu'il faut vite passer à au message et à la prédication.
Et même, ils commencent à chanter aussi, prendre le rôle du conducteur.
Oui, là, il y a des grandes discussions aussi dans le gouvernement de l'église, dans le fonctionnement. Il faut que les pasteurs respectent et qu'on se respecte mutuellement. Moi, j'ai travaillé à ça pendant des années. Ça n'a pas toujours été facile. Je peux vous dire, plusieurs fois, on m'a coupé la parole. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai béni le pasteur. Et je l'ai respecté. J'ai dit, j'espère qu'il va comprendre un jour. Et un jour, il va comprendre. Et la plupart, ils ont compris parce que je l'ai respecté. Si moi, je me mets en conflit avec lui, si je le critique, etc., ça va rien changer. Ça va pas aider. Au contraire, il va faire moins confiance. Hein? Je me souviens une fois, c'était au début que j'ai commencé, et puis la louange était encore pas très bien établie. Et maintenant, en Suisse, c'est quand même bien établi, bien respecté, en France, en francophonie. Mais là, c'était encore très difficile. Il y a une grande convention avec plein de pasteurs. Et moi, un pasteur, Jean-Claude Chablot, que vous connaissez, m'avait invité pour conduire la louange. J'ai dit, super, Jean-Claude, on se connaît, je te fais confiance, tu me fais confiance, pas de problème. J'arrive là, mais là, il y avait 15, 20 autres pasteurs, et tous ne me connaissaient pas. J'étais jeune, je démarrais. Et puis, au moment de commencer, ça commençait à 15 heures, je me souviens très bien, on avait répété tout un week-end, préparé les chants. J'allais commencer, on avait installé la sonore, 15 heures moins un quart. Je vais avec les pasteurs pour prier avant que ça démarre, faire connaissance, etc. Je dis, puis Jean-Claude dit, voilà Sylvain, il va conduire la louange. Puis le pasteur à côté dit, alors moi je fais quoi là? Je dis, ben, je sais pas, moi. Moi, je connais rien, hein. Je vous laisse vous organiser. Et ils ont commencé à discuter entre eux sur la présidence. Ils étaient pas d'accord. Ils avaient pas la même conception de la présidence. Jean-Claude pensait que c'était moi qui allais présider, et l'autre pasteur disait, non, dans mon église, c'est moi qui fais la louange. Donc moi, je vais faire la louange. Mais moi, j'avais tout préparé. Qu'est-ce que je fais? Et le pasteur vient vers moi, il me dit, Sylvain, on va bien s'entendre les deux. Tu commences, et moi, après, je reprends. Je dis, ok, on va voir. Dès qu'il y a l'onction, je reprends. Donc, je fais un chant. Au milieu du premier chant, il m'a pris la parole. Je dis, bon, j'ai une bonne onction. Hein, déjà, un chant, hein, c'est bon. Hein. Mais il a pris toute la louange. Il a pris des chants. On n'avait pas répété avec les musiciens. On a dû un peu se débrouiller pour accompagner. Je connaissais pas les chants. On n'avait pas les paroles. Il a fait quelque chose. Mais c'était pas très bien. Je suis désolé. Mais les gens dans la salle, ils ont vu la différence. Le soir, c'était Jean-Claude Chablot qui présidait. Il a dit, ok, nous, on fait comme d'habitude. Je accueille les gens et après je te laisse le micro. Et les gens, ils sont rentrés de la louange beaucoup mieux que l'après-midi où on sentait qu'il y avait un malaise, une tension, on avait parlé bon chant, parlé bonnes paroles et puis ça collait pas bien, tout ça. Donc tout seul, ça s'est prouvé. J'ai pas eu besoin de justifier. Parce que quand je suis descendu de la scène, j'avais envie d'aller parler à ce pasteur, lui dire, mais tu sais, lui expliquer tout. Moi, je fais la louange, Dieu m'a appelé, je sais faire ça, j'ai fait, lui expliquer tout mon curriculum. Dieu m'a dit, c'est moi qui justifie. Tu n'as rien à justifier. Donc je suis resté dans la paix. J'ai dit, on bénit ce frère, et je suis resté ami avec ce frère, et je le vois d'autres fois, maintenant, je suis ami avec lui, il n'y a aucun problème. Au lieu de créer un problème, j'ai choisi la paix, la bénédiction, et lui, il a changé. Mais il n'était pas prêt à changer à ce moment-là. Oui. L'autre avait déjà changé, Jean-Claude, mais lui, il n'avait pas encore changé sur la manière de faire. Donc, ce n'était pas facile. Et je vois des gens qui se bloquent là-dessus, qui se fâchent, et que ça amène des grosses crises. Mais ce n'est pas grave, il va comprendre un jour. Hein? Donc, surtout dans l'église locale, ben, travailler à la relation. Et si tu respectes ton pasteur, ton ancien, ton groupe, ils vont te respecter aussi. Et petit à petit, la place va être donnée. Et tu vas prouver par la réalité. Moi, je n'ai pas besoin de défendre la louange. C'est Dieu qui se défend tout seul, entre guillemets. Je ne vais pas dire, Dieu, il veut absolument qu'on loue comme ça. Moi, j'ai raison, toi, tu as tort. Peut-être c'est une autre manière de faire, une autre manière de comprendre. J'espère que ça va changer. Mais je vais respecter ta manière de faire. Et je crois que... Mais par contre, si on me donne le micro, si on me donne la responsabilité, je vais le faire bien. Je ne vais pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Je vais me préparer et je vais montrer, prouver que c'est possible aussi de le vivre de ma manière-là. Hein? Donc, c'est tout un travail, c'est sûr. Hein? Et il faut travailler aussi aux relations pastorales, expliquer aux anciens et comment on conçoit les choses et bien définir les choses. Et si on se respecte, ça va être possible. Et il y a certains pasteurs qui sont appelés à conduire la louange. Je connais des pasteurs qui ont vraiment un don pour conduire la louange, même qui sont pasteurs. Et c'est bien qu'ils le fassent aussi. Mais ce n'est pas juste non plus que c'est la même personne qui fasse tout. Hein? Donc il y a des fois où il doit dire, ok, aujourd'hui je prêche et je ne fais pas la louange. Et aujourd'hui je fais la louange et c'est un autre qui prêche. Donc laisser la place de temps en temps à d'autres. Et c'est comme ça que les ministères vont se développer et prendre leur place. Donc si on revient à notre thème, c'est toujours dans le thème, mais plus précisément, on dirige les gens vers un but. Les gens, ils veulent savoir où ils vont. Vous n'allez pas monter dans un bus si vous ne savez pas où va le bus. Vous n'allez pas à l'arrêt de bus dire, bon, je vais prendre un bus au hasard. Tiens, hein? C'est rare. La plupart du temps, on va dans le bus parce qu'on va aller dans cette direction. Donc, les gens, ils viennent au culte parce qu'ils ont une idée. Ils veulent aller où? Ils veulent aller rencontrer Dieu. Normalement. Des fois, il y a des gens qui viennent au culte par hasard, hein. Mais c'est pas la majorité. Ou ils sont peut-être obligés par leur mari, leur femme, leurs parents. Ils sont là. Mais la majorité des gens de l'église, 80-90%, sont là parce qu'ils veulent s'approcher de Dieu. Donc, vous devez les approcher de Dieu. Mais on peut s'approcher de Dieu de plusieurs manières. Il y a plusieurs choses que Dieu veut nous révéler. Donc, des fois, on va aller dans une direction, plus dans l'autre. Mais en tout cas, ce qui est clair, l'adoration, c'est amener les gens d'adoration, pas les amener vers des discussions humaines, des explications, etc. C'est vraiment l'adoration, le but. Créatif, vivant et dynamique. Ça veut dire, si vous faites tout le temps la même chose, les gens ils vont bien le voir. Ah, c'est Georges qui dirige la louange ce matin. Ah, je sais qu'il va commencer par ce chant-là, parce que c'est son chant préféré. Après, il va l'ouvrir, nous asseoir. Après, il va faire tout le monde se lever, taper dans les mains. Parce que tu fais tout le temps la même chose. Donc, apprenez à développer. Moi, j'ai dû apprendre à jouer des chants, à faire des choses que je n'avais pas l'habitude, qui n'étaient pas dans ma nature. Mais j'ai grandi, j'ai essayé. Et ça, c'est plus difficile pour moi. Ce style-là, ce chant-là, ce rythme-là, je vais progresser. Comment tu joues ce rythme-là? Apprends-moi. parce que je veux jouer ce chant, parce que je veux apprendre. Ça, j'arrive pas à le faire. Et comme ça, j'ai créé d'autres choses. Être créatif, c'est aussi essayer autre chose, faire la louange différemment. Pourquoi prendre toujours les chants joyeux au début? Prendre une fois un chant d'adoration pour commencer. Pourquoi pas démarrer par un chant en langue? Pourquoi pas démarrer par la prière? On va pas commencer par chanter, on va prier. Levons-nous, prions tous ensemble. Pourquoi pas commencer avec quelqu'un qui chante et les gens qui écoutent? C'est aussi possible dans l'adoration. Lire un texte, mettre la musique sur un texte, faire montrer une image sur le projecteur, quelqu'un qui fait de la peinture, travailler avec un danseur, être créatif, quoi. Tout ça, ça reflète Dieu, parce que Dieu, il est très créatif. Regardez comment il crée la nature, les animaux, les fleurs, les couleurs, et ça change les saisons. Donc si la louange, elle est c'est tout le temps la même saison, il y a des gens qui font la louange hiver, tout le temps, toute l'année, alors il fait chaud, puis vous avez une louange hiver, hein, on a froid, on est, hein, ou bien le contraire, c'est l'hiver et vous faites une louange été, joyeuse, plage, comme ça, bon, c'est des images que je vous donne, mais il faut essayer d'évoluer, de changer, et d'être créatif et dynamique. Et c'est un défi, mais c'est un travail. Et voilà la clé, on en a parlé déjà, il ne parle pas trop. Moi, je dis tout, à tous les conducteurs de louanges, vous parlez trop. Vous parlez trop, taisez-vous et chantez. Arrêtez d'expliquer. Mais le problème dans beaucoup d'églises, c'est qu'on a pris la louange comme un alibi pour entraîner les prédicateurs. Hein? On dit, ah, toi, tu vas bientôt prêcher, mais commence par faire la louange. Puis au lieu de la louange, ils prêchent. Ils prêchent 10 minutes pendant la louange. Taisez-vous, arrêtez de prêcher. Et ça, moi, j'ai discuté de ça avec beaucoup de pasteurs, beaucoup de présidents. Je leur ai expliqué, non. Il y a un autre moment de prêcher. Fais le prêcher mercredi soir à la réunion du mercredi soir, à l'étude biblique, au groupe de maison, fais un groupe de dames, enfin, n'importe où, mais pas pendant la louange. Il y aura déjà un message après. Et déjà, les gens vont pas retenir ce qu'il a dit, puisqu'après, il y a encore un autre message qui va effacer ce qu'il a dit avant. Donc, ça sert à rien. Ou fais-le s'entraîner à l'école biblique, ou devant son miroir, ou je sais pas où, mais pas pendant la louange. Hein? On peut apprendre à plein d'endroits. Donc, même les conducteurs de louange, Ils parlent trop. Vous savez, cette semaine, que mercredi soir, je me suis levé, j'ai pensé que, voilà. Ils expliquent toute leur vie. C'est pas le temps de donner ton témoignage. Si ça a un sens par rapport à la direction, ok, tu peux dire une chose. Mais c'est pas le moment de toujours parler de toi et de dire tout. C'est le moment de parler de Dieu et de se tourner vers Dieu et d'adorer Dieu. Donc moi, si je dis quelque chose, je dis toujours quelque chose, mais je dis quelque chose de simple. Je parle 2 minutes, 3 minutes, maximum. Mais dans ces 3 minutes, je dis des choses importantes. Je parle de Dieu, je parle de qui il est, de comment il est et de comment on va l'adorer ce matin. Puis ensuite, on y va. Mais même si tout le monde n'a pas compris, je donne l'occasion aux gens de le faire. Hein? Donc, apprenez aux gens à parler moins. C'est un grand défi, un grand défi. Ensuite, le travail du conducteur. Qu'est-ce qu'il doit faire le conducteur? Il faut aller chercher les passagers pour les conduire à destination. Donc, on va à l'arrêt de bus, on doit se préparer, comme je l'ai dit, on doit aller, on doit prendre les gens. Déjà là, on a un problème, parce que quand le culte est à 10h, tous les passagers ne sont pas là à 10h. Comment on fait? Vous n'avez jamais ça dans votre église, vous, hein? Ils sont tous là, ils sont là même à l'avance. Hein? Non, justement, les gens ne sont pas toujours là, donc ce n'est pas facile. Le conducteur, il faut qu'il attende un peu, parce que ça ne sert à rien de partir avec un bus vide. Alors, il y en a, ils sont tellement pressés. Ils arrivent à l'arrêt, il n'y a personne, tant pis, on part. Ils partent comme des fusées, ils roulent à vide. Donc l'église est là, mais ils ont pas suivi le bus. Les gens sont assis, mais le bus, il est déjà parti. Parce que le groupe de louange, il s'est préparé samedi, il a répété samedi soir, il est venu dimanche matin à 8h, ils sont prêts. Oh, c'est chaud, on y va. Ils font, mais les gens, eux, ils sont froids. Ils sont pas chauds comme vous. Ils sont pas prêts. Donc des fois, il faut attendre un peu. Mais je dis pas non plus, il y a d'autres personnes, ils attendent pendant tout le culte. Ils attendent les gens, ils disent, ah, il y a encore un qui arrive, puis encore un qui arrive, et puis il démarre jamais. Ça va pas non plus. Donc, il faut trouver un équilibre. Au bout d'un moment, 5-10 minutes, maintenant on démarre. Et puis, s'il y en a qui arrivent en retard, j'espère qu'ils vont voir qu'ils ont manqué le bus. Et puis, ils vont le voir. Si vraiment les gens avancent, ils vont sentir, ils vont dire, moi, je suis déconnecté. Mais pourquoi? Parce que j'étais pas là. Hein? Donc, c'est important d'à un moment donné, attendre, puis après, avancer. Donc, au bout d'un moment, on roule. On avance dans la bonne direction, on conduit les gens dans la présence de Dieu. Tout est imagé par rapport au conducteur, mais je crois que c'est très proche de ce qu'on vit dans la louange. Donc, on roule, mais on va où? Donc, dans la présence de Dieu. Et c'est là que je reviens à mon image des 3 dimensions. Donc, il faut préparer les participants à entrer dans les trois dimensions. La reconnaissance. Oui. 8. J'étais trop vite. 8, c'est roulé. 7, c'est le travail du conducteur. 8, c'est roulé. Avancer. Et 9, c'est conduire les trois dimensions. Donc, préparer les gens à entrer de la reconnaissance. Donc, déjà, les gens, je ne sais pas comment ils ont vécu leur semaine ou leur vie avec Dieu. C'est vrai que des fois, les gens, c'est étonnant, même les chrétiens de l'Église, ils manquent de reconnaissance. Donc, il faut les aider. Ils n'arrivent pas même à entrer dans la cible. Donc, on commence par la reconnaissance. Merci Seigneur pour cette semaine. Merci pour ce dimanche. Merci pour cette journée que tu as prévue pour nous. C'est la journée que l'Éternel a faite. Merci parce qu'on est vivant, on est en bonne santé. On peut venir te louer ce matin. Ensuite, encourager à louer. On commence à parler de Dieu. Présenter Dieu tel qu'il est. Dans sa personne. On lit des textes sur Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Dieu est juste. Dieu règne. Et on commence à louer Dieu pour qui il est. Et ensuite, on encourage l'adoration et l'écoute. Donc, ça c'est mon but, c'est la cible. Mon but c'est d'arriver dans la cible et d'aider les gens à rentrer dans cette cible. Hein? N'importe où, je dirais. Alors, ce qu'il faut comprendre quand on conduit la louange, c'est que déjà les gens ne sont pas toujours dans la cible. L'idéal, bien sûr, avec des chrétiens matures, je dirais, on vit dans la cible. Quand tu es chrétien, tu connais Dieu, tu es reconnaissant pour toutes choses. Tu dis merci, ta journée, tu loues Dieu, tu adores, tu loues, tu remercies. Mais quand on vient au culte, dimanche matin, il y a peut-être 20%, 30%, 50% des gens qui sont en dehors de la cible. Il y en a qui sont ici, il y en a qui sont là, il y en a qui sont là. Et déjà, c'est tout un travail de dire aux gens, venez, on va entrer. Et ça peut prendre déjà 10 minutes, 15 minutes de la louange pour que les gens se rassemblent et s'approchent déjà. Je dis bien, c'est juste s'approcher. Dans certaines églises, je passe même toute la louange à faire approcher les gens de Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas ça, malheureusement. Et ensuite, quand tu connais que les gens sont tout prêts, alors tu dis, voilà, maintenant on entre, on avance. Et tu avances, tu reconnais, tu dis merci Seigneur, tu rentres dans la louange, tu reconnais qui est Dieu, tout à coup tu es content, tout à coup le président arrive, bon, maintenant nous allons passer aux annonces. Aïe, 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 il m'a tout cassé. Il m'a arrêté sur la route. Hein? C'est frustrant. Et en même temps, eh ben, on respecte les autres, les frères, les sœurs, et puis on laisse la place à tout le monde. Donc, moi, j'essaye de viser toujours ce but, mais je n'y arrive pas toujours. Dans un culte, je n'y arrive pas toujours. Alors, heureusement, peut-être que samedi soir, il y a une soirée de louange, puis on a 2 heures de louange. Alors là, on va y arriver. Parce que les gens, ils viennent déjà pour ça. Puis ensuite, on commence rapidement, et puis on va entrer dans la louange, on va aller dans l'adoration, puis on va repartir dans la louange, puis on va revenir de la reconnaissance, et on va revenir. Et on peut faire beaucoup de chemin. Il n'y a pas un chemin droit. Hein? Ce n'est pas une nouvelle liturgie. 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. C'est bon. On a tout fait. Non. Il faut exploiter. Parfois, Dieu va nous faire vivre une réunion de louange. On va vraiment louer Dieu. On va rester dans la louange. Une autre fois, on va être au pied de Jésus dans l'adoration. Et on va écouter. Et on va être à genoux. On va être prosterné. Dieu va nous parler. Il va nous convaincre. On va se consacrer à lui. Et on va rester là. Ça dépend aussi de la foule qui est là. Des gens qui sont là. Leur cœur, leur désir. Et d'autres fois, il faudra rester de la reconnaissance. Donc moi, j'ai toujours le même but. Toujours arriver là, mais ça prend plus ou moins de temps, et j'y arrive pas toujours. Et selon la réunion, selon les participants, selon leurs désirs, ça peut être différent. Donc sur une église, moi j'essaye au moins de viser, par exemple sur une année, je me dis que sur l'année, on doit y arriver plusieurs fois, et même le plus souvent possible. Mais si j'ai pas réussi un dimanche, je dis, ben dimanche prochain, on va y arriver. Et j'essaye peut-être de reprendre les gens, si les gens, j'ai dû aller chercher aux quatre coins, là, partout, j'essaye de dire, dimanche prochain, on va repartir de là. Vous allez venir avec un cœur reconnaissant. Et chacun va apporter un sujet de reconnaissance. Et quand on part depuis là, ben c'est plus facile d'y arriver là que d'avoir passé déjà 10 minutes à chercher les gens pour les amener proches de Dieu. Vous comprenez? Et ça, c'est tout un défi quoi, pour celui qui préside, celui qui conduit. Donc, j'enseigne ces trois aspects. Et comme je ne veux pas trop parler dans la louange, je prends juste une chose. Peut-être je dis, ok, aujourd'hui, on va être reconnaissant pour ce que Dieu a fait. Est-ce que vous arrivez à voir des sujets de reconnaissance dans votre semaine? Pensez à ce que Dieu a fait. Où je lis le psaume 139 et je dis aux gens, bénissez Dieu pour qui vous êtes. Et puis une autre fois, le dimanche d'après, on va partir sur la louange. Et puis le dimanche d'après, je dis, voilà, on est dans la présence de Dieu. Dieu nous attend à ses pieds, on va vraiment l'adorer ce matin. Et on part dans l'adoration. Donc on peut aussi démarrer quasiment presque ici. C'est plus difficile, mais c'est possible. Si vous avez travaillé ça sur plusieurs dimanches, sur plusieurs sessions, sur plusieurs fois, on y arrive. Oui ? Question ?
Un conducteur me disait que lui, quand il dirige, il est vrai qu'il suit l'Esprit Saint, mais aussi il suit aussi l'attitude du groupe. Mm-hmm. Donc il me disait, je lui demandais, il faut combien de chants, parce que parfois vous chantez un seul chant et vous sentez que Alors il me disait que lui, il entend souvent, il voit l'attitude du groupe pour se délimiter aussi dans le nombre de chants. Et parfois, s'il faut prophétiser, il faut ramener les gens, être silencieux, tout ça, ça dépend aussi de l'attitude
du groupe. Du groupe, tu parles du groupe de louanges ou de la salle ?
De la salle.
De toute la salle, ouais. C'est vrai que on peut faire aux gens beaucoup de choses. Du moment que tu as le micro et que tu présides, tu peux dire aux gens beaucoup de choses. Et les chrétiens, ils sont gentils, ils sont polis, ils sont bien élevés, ils vont obéir, entre guillemets, la majorité. Hein? Donc c'est bien, mais c'est pas bien aussi. Parce que justement, tu peux faire plein de choses qui sont pas forcément justes. Donc il faut laisser aussi un peu les gens vivre. Est-ce que vous voulez vraiment adorer ce matin? Des fois, je dis aux gens. Alors si vous voulez, voilà l'occasion de le faire. Et puis laisser que ça vienne un petit peu de la salle. Et tout d'un coup, si vraiment les gens sont dans l'adoration, c'est vrai que ça va te dépasser. Moi, je suis très content en tant que conducteur de louange. Des fois, je sens que la louange est conduite par l'esprit dans la salle. Je n'ai plus rien besoin de faire. Et c'est merveilleux, ça. Parce que je ne suis pas là pour tout faire, tout dire. Je ne suis pas un adjudant-chef qui donne des ordres, comme je l'ai dit. Je donne juste une direction, mais après, j'espère que les gens prennent la direction.
Parce que parfois, les conducteurs interrompent alors que les gens sont entrés.
Exactement.
Commencent à entrer dans...
C'est comme j'ai dit, pas trop parler, c'est aussi ça. Des fois, le conducteur dit, ah, j'ai encore ce chant à faire, puis encore celui-là, et j'aimerais tellement bien chanter ce chant qui est magnifique. Mais laisse ton chant, laisse-le tomber, c'est pas grave. Ah, mais tu sais, on l'a répété, on l'a appris. C'est pas grave, tu le chanteras une autre fois. C'est jamais perdu. Tout ce que tu as répété et travaillé, c'est jamais perdu. C'est toujours utile. Mais peut-être que tu l'utilises pas ce dimanche, mais le dimanche d'après ou dans un mois. Et ça, c'est vrai qu'il faut beaucoup de souplesse, flexibilité pour écouter, puis être attentif à ça, pour pas faire n'importe quoi. Donc, nous sommes en train de parler de conduire les trois dimensions. Je crois qu'il ne faut pas faire de ça une nouvelle théologie, une nouvelle liturgie, mais simplement exploiter tout cela. Et puis que les gens, ils vont peut-être comprendre mieux ce que c'est la louange quand on va leur expliquer en plusieurs parties. Parce que justement, dans la louange, on met un peu tout et n'importe quoi. Hein. Les gens, beaucoup d'églises, ils disent, mais la louange, c'est quoi? C'est la musique. Même certains pasteurs, ils me disent, tu viens faire la louange? Je dis, tu veux quoi? Ben, viens faire la musique. Je dis, mais je ne suis pas juste un animateur de musique. Hein? Ça, c'est pour les soirées dansantes ou le bal ou le mariage. Mais ça, moi, j'aimerais conduire la louange. Ah, s'il y a une différence. Je dis, oui, il y a une grosse différence entre faire de la musique et conduire la louange. Hein? Et il y a des gens qui pensent que faire les chants dans l'église, c'est justement faire de la musique, l'animation. Ils font ça très bien pour les spectacles, pour la soirée. Ils disent, ah, tu chantes bien, alors viens faire ça à l'église. Mais c'est pas le but du culte. L'adoration, c'est apporter quelque chose à Dieu. Donc, à la limite, même si le musicien arrête de jouer, l'adoration, elle va continuer. Donc, il ne faut pas non plus que toute l'adoration soit dépendante uniquement de la musique. Et des fois, il faut de la musique et des fois, il ne faut plus de musique. Et il faut que les gens apprennent aussi à adorer sans instrument. Puis, des fois, il faut que les instruments jouent pour servir la vision. Donc, c'est dans ces trois dimensions, il faut utiliser tout ce qu'on a. Et il peut y avoir de la danse, il peut y avoir de la peinture, il peut y avoir d'autres formes artistiques. Mais il faut vraiment viser un seul but, un seul et même but. Oui.
Je voulais poser une question par rapport à votre esprit. Hein.
Oui.
Bon, le but du conducteur, c'est d'emmener les gens dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il arrive souvent que dans votre conduite du peuple, qu'il y ait des moments où, au lieu par exemple de conduire, par exemple, je vois qu'il y a des moments où le conducteur il peut amener les gens dans la présence de Dieu. Les gens reconnaissent leur état, d'autres vraiment se crient, ils pleurent, ils sont dans la joie. Et à ce moment-là, peut-être que le pasteur dit, bon, maintenant on doit prier. Est-ce qu'il arrive le moment où, par exemple, on peut asseoir, par exemple, à tout le programme et dire, maintenant, comme nous sommes dans cet état, laissons les gens continuer dans cet état, dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il arrive vraiment que vous puissiez voir vivre cela?
Oui, j'ai pu le vivre plusieurs fois et je pense que c'est très important. Et ce qui est important, c'est d'avoir une très bonne relation avec tous ceux qui dirigent le culte. Si on met les choses en opposition, ça ne marchera pas. Et moi, certaines fois, j'ai vu des églises ou des pasteurs, des situations où on disait, OK, la louange, 30 minutes, et moi, je prends 30 minutes ou je prends une heure. Et c'est comme si la montre va déterminer la fin. Je dis, OK, c'est prévu. mais je dis peut-être que ça sera plus long. Mais il faut avoir une bonne relation avec le pasteur, parce que si le pasteur se sent menacé, il pense que tu lui piques du temps, il va pas être content. Je dis, mais je veux pas te prendre du temps. Mais si Dieu fait autrement, sois ouvert. Donc, quand j'ai une bonne relation pastorale avec des leaders, je peux le vivre, et ça m'est arrivé plusieurs fois. Par exemple, une fois, je sais pas, on était dans la présence de Dieu, et moi, ce que je dis souvent au président, je dis, ok, moi, j'arrête pas, je te laisse arrêter. Si tu m'arrêtes pas, moi, je continue 2 heures, 3 heures, 4 heures. Parce que la louange, elle s'arrête jamais dans le ciel. J'exagère un peu, mais je dis, voilà, je vais continuer. Je sais que c'est 30 minutes, mais moi, tu peux m'arrêter quand tu veux. Si tu veux m'arrêter au bout de 20 minutes, tu m'arrêtes. Moi, j'ai plus de problème avec ça. Je défends pas ma participation, ma présence. Je sers Dieu. Si on me donne 10 minutes, je fais 10 minutes. Si on me donne 30, je fais 30. Si on me donne 1 heure, je prends 1 heure. Donc, je le laisse sentir, puisque c'est le rôle du président de sentir un peu les choses. Et souvent, ce que j'ai constaté, c'est qu'il va me laisser plus de temps. Parce qu'effectivement, les gens sont dans la présence de Dieu, sont en train de vivre quelque chose, et il n'a pas la liberté d'arrêter. Mais des fois, moi j'ai assisté à des cultes où il fallait vraiment arrêter le conducteur louange parce que c'était n'importe quoi et puisqu'on n'était pas dans l'adoration. Et des fois, c'est mieux de raccourcir. Donc il faut aussi apprendre à accepter ça. Mais je sentais une fois, j'étais là, je dis ok, c'est fini, mon temps est terminé, il faut que j'arrête. Donc j'étais là et je sentais quelque chose de fort. Je regarde le pasteur et le pasteur me fait, voilà, pas de parole, rien. Mais il me dit juste, il me fait confiance, il dit continue. Le même esprit est là. Et ensuite, je fais un chant. Après, je dis, bon, cette fois, j'ai déjà fait 5 minutes de plus, c'est bon. Il dit, non, continue. Et finalement, on a fait 1 heure. Et lui a dit, il est arrivé. Après, il a dit, je crois qu'il n'y avait pas besoin de prêcher ce matin. Le Saint-Esprit a fait son œuvre. Amen. Et voilà. Mais il faut que le pasteur, il soit très bien aussi dans sa tête, dans son identité, dans sa personnalité pour faire ça. Et certains arrivent très bien à le faire et d'autres n'arrivent pas. Alors, je respecte parce que, voilà, ils ont aussi besoin de grandir. Et peut-être que aussi, des fois, de faire l'expérience négative, de se tromper, ils vont apprendre. Peut-être qu'il va te couper la parole, il va prendre son message, mais après, les gens vont venir après le culte dire, ah, c'était tellement bien la louange. Ils vont rien dire sur le message. Ils vont dire, ah, on était vraiment dans la présence de Dieu. Et lui, il va comprendre peut-être qu'il aurait dû laisser plus. Mais, comme j'ai dit aussi, les conducteurs de louange doivent apprendre parfois que c'est eux qui ont trop fait, qui ont pris trop de place. Là, tu as vraiment fait 2 chants de 3, c'était trop long. Les gens, ils étaient prêts à écouter la parole. Pourquoi tu as fait ça? Ou tu as fait un chant qui n'était pas le bon chant. Des fois, on prend des chants qui ne sont pas justes. Alors, tu peux poser ta question parce qu'elle est très intéressante pour tout le monde.
Ma question, c'était que parfois, il est en louange et puis il y a des gens qui prennent des chants. Donc, c'était le chant là, tu m'as établi comme sentinelle sur le pays. Après, il y a eu le temps de louange et que ça n'a rien à voir avec la louange, l'adoration, si c'était un thème ou quelque chose comme ça. Tu as l'impression que ce chant n'a rien à voir.
Voilà. Donc, comme je dis, certains conducteurs peuvent couper le flot en partant dans une autre direction. Ils prennent pas la bonne route. Ils sont sur leur bus et tout d'un coup, ils disent, ah, je veux partir à droite ici parce qu'une petite route, c'est un raccourci. Puis finalement, ils s'embourbent dans un chemin qui n'était pas du tout un raccourci. Puis c'est pas le bon chemin. Donc, il faut aussi savoir reconnaître ça. Il y a des chants qui sont propices à d'autres choses. Alors, si vous avez dans le J'aime ou dans beaucoup d'autres recueils, à la fin des thèmes, il y a différents thèmes. Il y a des chants d'adoration, il y a des chants d'appel, il y a des chants de consécration, des chants de confession, des chants de combat spirituel, des chants d'évangélisation. Donc, si tu prends un chant de chaque, tu vas faire un pot pourri, un gros mélange. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on est en train de vivre ce matin? Dans quelle direction on va? Voilà. Et puis, d'autres fois, voilà, c'est la fin du culte, on va terminer avec un chant. Là, tu prends un chant d'exhortation, ou un chant de foi, ou un chant d'envoi, parce que c'est la fin du culte et c'est différent. Ou bien là, c'est une soirée d'évangélisation, ou c'est le début du culte, ou bien maintenant, on va commencer à intercéder. Alors, regarde dans les chants d'intercession. Eh bien, voilà, on va prendre ce chant sentinelle sur le pays parce qu'on va commencer à prier pour la nation. Et c'est un très bon chant pour cette situation-là. Mais c'est vrai que dans l'adoration, à moins que tout à coup, Dieu a parlé par ce texte, qu'une personne a lu ce texte, qu'il y a une prophétie, et puis on répond à la parole de Dieu. Mais en général, il faut choisir les bons chants pour le bon moment. Et ça, c'est aussi très important. Donc, mettons pas la faute tout sur le président ou sur le pasteur ou sur le conducteur de louange, mais chacun prend ses responsabilités, essaye de faire au mieux. Mais la clé, c'est le travail d'équipe. Le ministère, c'est travailler les uns avec les autres. Pasteur, prophète, apôtre, se respecter, de s'écouter. Donc, il faut que la louange écoute les autres et que les autres écoutent la louange. Et des fois, c'est l'un qui doit être plus long, d'autres fois, c'est l'autre. C'est pour ça que c'est pas juste sur un dimanche qu'on peut y arriver, mais en travaillant, en relation, on peut y arriver plus, beaucoup mieux. Et moi, j'ai pu le vivre plusieurs fois où j'ai senti cette confiance réciproque avec les pasteurs, avec les leaders, où on me laissait plus de place, ou bien moi, je laissais plus de place. Et je crois que c'est comme ça qu'on va construire et qu'on va grandir. Ouais, tout à fait. Oui?
Est-il possible, quand un conducteur arrive à amener des gens à adorer Dieu sans que lui-même nous parle.
Ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Parce que j'ai remarqué que les gens, tu peux leur dire beaucoup de choses. Tu peux leur dire, prier, chanter, adorer. Mais si toi, tu le fais pas, ils en auront beaucoup plus de peine. Pourquoi il me dit de chanter et lui, il chante pas? Si tu as la voix cassée, bon, il dit, écoutez, je m'excuse ce matin, ma voix, elle est pas là. Alors, on va chanter. Peut-être que ça peut arriver, mais c'est quand même des exceptions. Mais la majorité du temps, si tu dis à quelqu'un de faire quelque chose, tu le fais et il va le faire.
Donc, c'est-à-dire, spirituellement, est-ce que les gens peuvent rencontrer Dieu et sentir la présence de Dieu et atteindre la cible sans que lui-même, en fait, lui...
Oui, ça c'est aussi possible, parce que justement, l'esprit guide et l'esprit agit, c'est-à-dire que des fois, il y a plus de maturité dans la salle que devant, sur la scène. Parce qu'on a demandé aux jeunes de conduire et puis qu'ils n'ont encore pas trop d'expérience, puis qu'ils essayent, puis au moment donné, ils sont dépassés, puis c'est la foule qui conduit les jeunes dans l'adoration. Donc, amen, c'est aussi possible. Mais ça serait mieux que ça soit dans l'autre sens. Mais dans la réalité, oui. Et je crois qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître que parfois, ben, il y a une petite grand-maman là qui est assise au dos, qui est tout le temps là, mais qui est fidèle, et puis qui vraiment a un esprit de prière et d'adoration puissant, puis qui tire tout d'un coup l'église par sa prière et par son témoignage, et par son chant. Donc oui, 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 il faut respecter ça, et c'est tout à fait aussi possible. C'est pas la majorité des cas, mais c'est possible. Moi, ça m'est arrivé d'être dans des groupes où j'ai senti que, comme je l'ai dit, c'est la salle qui me tirait dans l'adoration. Moi, j'avais envie d'adorer, mais j'ai senti que ça venait encore plus fort de la salle. Et ça, c'est merveilleux quand on peut vivre ça. Alors, malheureusement, la majorité de nos églises n'ont pas dans cette maturité-là. Mais des fois, on est dans des séminaires ou dans des réunions spéciales ou avec des gens vraiment mûrs et matures. Et c'est ce qui se passe. Et c'est très bien quand ça se passe comme ça, quoi. C'est possible, tout à fait. Donc, il ne faut pas que le conducteur, à ce moment-là, il casse tout puis qu'il prenne quelque chose d'autre qui ne va pas du tout dans le même sens, quoi. Il faut qu'il sache reconnaître, ah là, ils ont avancé, quoi, malgré moi, tout à fait. Donc, je donnerai un petit détail qui peut vous aider aussi. Variation, j'appelle ça variation, ça veut dire conduire, varie selon la situation. C'est très important de comprendre, s'adapter à l'église, au groupe, aux gens. Diriger selon le nombre de personnes. On ne dirige pas de la même manière un groupe. Donc moi, je résume ça en trois catégories différentes. Et vous pouvez tous vous sentir concernés par ça et voir, parce que vous avez tous vécu sûrement ça. Il y a des groupes de prière. Un groupe, à partir, je pourrais mettre même déjà deux personnes, hein, jusqu'à 20 environ, ça peut être 25, 30, mais un petit groupe, groupe de maison. Dans un groupe comme ça, j'ai l'impression que quasiment tout le monde peut diriger ou peut apprendre. Moi, j'ai appris comme ça. J'ai converti dans un groupe de jeunes, on était 40, 50, mais on avait une réunion de prière la semaine et on se voyait ensemble en cellule. On était 10, 15 et là, on peut essayer, on peut apprendre, on peut s'exercer. Parce que les autres, on est en confiance, on se connaît bien. Et puis, il n'y a pas besoin de toute une technique, toute une sonorisation, tout un programme. C'est très simple. Hein? Et on peut apprendre beaucoup de choses spontanément dans un petit groupe comme ça. Ensuite, on a un groupe que j'appellerais petite communauté, à partir d'une église de 25, 30, 50, jusqu'à 100, 150. Ça reste très familial. On se connaît quasiment tous. Tu peux savoir presque les noms de tout le monde si tu restes assez longtemps dans un groupe comme ça. Et tu es dans une petite salle où chacun peut s'entendre. Donc, tout le monde peut prier. Tout le monde peut même quasiment entonner un chant et on peut l'entendre et on peut suivre. Puis ensuite, grand groupe, depuis 200, j'aurais pu mettre 101 ou 150, ça dépend. Mais là, tout d'un coup, ça devient plus conséquent. La salle est plus grande, on est plus loin, jusqu'à 10 000, 50 000, 100 000, et plus 1 million avec Reinhard Bonnke ou d'autres. Hein? Donc, tu ne vas pas conduire la louange comme ça si tu as 1 million de personnes. Dire, qui c'est qui a un chant ce matin à proposer? Hein? Ça ne marche pas. C'est pas possible parce que, voilà, on ne s'entend pas. On n'a pas la capacité de comprendre et de saisir. Donc, tu vas être beaucoup plus précis, plus préparé, plus organisé pour diriger un grand groupe qu'un petit groupe. Finalement, l'adoration, elle est la même, mais dans la préparation et dans la direction, dans la communication, c'est tout différent. Dans un petit groupe de 10 personnes, quelqu'un a un chant entonné, il l'entonne et tout va bien. Tu te sens pas menacé, tu n'as pas un problème. Et puis, tout le monde peut suivre et puis tu apprends. Et c'est bien. dans une petite église où on s'entend bien, tu peux laisser prier tout le monde. Dès que tu as 300 personnes, 500 personnes, tu dis à quelqu'un de prier, il y a un qui prie au fond de la salle, tu l'entends pas, il y en a un autre qui commence, qui prie en même temps, et il y a plus d'écoute, de respect, ça marche pas la même chose. Donc tu vas donner des autres directions, tu vas dire, on va prier tous ensemble maintenant, ou on va se mettre par groupe, par trois, et chacun prie à sa place, ou prie avec votre voisin, ou voilà, ou tu pries depuis la scène, tu fais venir quelques personnes devant, ils prennent le micro, ils prient au micro et tout le monde entend. Tu organises les choses différemment, voyez. Donc ça, c'est très important de comprendre. Tu ne peux pas faire la même chose dans un petit groupe que dans un grand groupe. Et que tout le monde n'est pas appelé à diriger un groupe de 10 000 personnes, mais tout le monde peut conduire un groupe de 5 à 10 personnes, comme je l'ai dit. Hein? Et c'est là aussi où tu exerces tes dons et on voit si ensuite Dieu t'appelle à plus. Et c'est comme ça que ça va se construire dans ta vie. Que ce soit la même chose au niveau pastoral, au niveau leadership, au niveau louange, ça change. Hein? C'est clair là, les groupes, c'est bon. Ensuite, la préparation. Je crois que pour toute bonne louange, il faut bien se préparer. Donc, dans la préparation, je dirais une préparation tous les instants. Ça veut dire que tu ne peux pas juste dire, ok, dimanche je fais la louange, donc je vais être un bon chrétien cette semaine. Et puis je vais bien lire ma Bible. Puis la semaine d'après, j'ai congé, donc c'est bon. Je peux oublier. Hein. C'est ta vie chrétienne préparée avec Dieu qui va t'aider d'une manière générale. Donc, tu gardes une bonne relation avec Dieu et une bonne relation avec l'Église. Si tu es fâché avec l'Église, tu dois conduire la louange, ça va être très difficile. Hein? Si tu es en conflit avec le pasteur ou avec les anciens, tu peux pas. Tu dois être en bonne relation. On connaît bien ce texte de Matthieu qui dit, si avant d'apporter ton offrande, tu as quelque chose contre ton frère, va résoudre déjà ça avec ton frère avant d'offrir ton offrande. Donc, ça, c'est nécessaire. Et ensuite, une fois qu'il y a cette chose fondamentale, il y a une préparation spirituelle, c'est-à-dire, si je conduis la louange, je vais me préparer spirituellement. Je vais prier, je vais lire ma Bible, je vais chercher quelque chose de spirituel. Seigneur, où est-ce que tu veux aller? Quelle est ta pensée pour ce temps de louange? Quelle est ta direction? Quel champ je dois prendre? Qu'est-ce que tu veux dire au peuple? Et Dieu me donne un texte, Dieu me donne un verset, Dieu me donne une parole, une image que je prépare, que je garde. Préparation musicale. Dieu nous a donné des dons, mais ces dons-là, ils doivent s'exercer. Donc l'instrument, il doit être préparé, il doit être peut-être accordé, répété pour y arriver. Donc les musiciens, ils doivent travailler leurs instruments. Moi j'ai travaillé pendant des années, comme je vous l'ai donné dans mon témoignage, j'ai commencé, je jouais très mal, donc j'ai dit il faut que j'apprenne. J'ai repris des cours de piano, après j'ai pris des cours de chant, puis après j'ai pris des cours très poussés dans toute la musique. Tout le monde n'est pas appelé forcément à être à plein temps là-dedans, mais en tout cas à progresser avec son instrument. Si Dieu t'appelle et t'a donné des dons, tu peux les faire fructifier, ces dons-là, dans la musique. Donc on répète. On répète avec les musiciens. On se retrouve ensemble dans la semaine. On travaille les morceaux, on travaille les accords, on travaille la mélodie pour être au point. Préparation technique, c'est tout ce qui va au-delà, c'est-à-dire sonorisation, micro, rétroprojecteur, projecteur vidéo, ordinateur, sono, chaise, table, scène, tout ce que vous voulez. Il y a plein de choses à préparer. Alors, c'est pas à vous de le faire, mais assurez-vous que quelqu'un le fasse. Et puis souvent, c'est quand même à vous de le faire un peu. Hein. Préparer les choses pour que ça puisse bien fonctionner. Et je dirais, selon mon expérience, plus du 50% du résultat dépend de la préparation. Il y a des gens qui sont très spirituels. Dieu va tout faire. Mais ils arrivent à 10h moins 5, il n'y a pas de micro, la guitare est désaccordée, ils ne savent pas jouer les chants. Ça ne va pas marcher. Je suis désolé. Ça ne va pas marcher. Même si le Saint-Esprit est là et que Dieu est bon et il est fidèle, il faut que les choses là soient bien au point, bien préparées. Et je dis, c'est que le 50%. Après l'autre 50%, c'est ce que Dieu va faire. Le Saint-Esprit, son action, etc. Mais tu dois préparer les choses bien. Et ensuite, le groupe de louanges. Qui est-ce qui est dans le groupe de louanges? C'est la question qu'on pose toujours. Dans l'équipe, dans la chorale, dans les musiciens. Donc, choisissez des gens consacrés ou engagés. Hein? C'est évident, ça me semble, mais je le précise quand même. C'est des gens qui sont là parce qu'ils aiment Dieu. C'est pas juste des musiciens. Et c'est le plus grand piège qu'on a dans la louange, c'est qu'ils disent, ah, tu joues de la guitare, ben viens. On sait même pas s'il prie, s'il aime le Seigneur, etc. Moi, je pose quand même certaines questions. Hein? J'essaie de voir leur vie spirituelle, s'ils viennent au culte, etc. S'ils vivent quelque chose avec Dieu. Avoir une attitude de service, pas de show. Dans la musique, c'est le show business, hein. C'est-à-dire qu'on aime bien montrer ce qu'on sait faire. Dans l'adoration, c'est pas le but. Je me souviens, au groupe de jeunes, on avait un gars, il jouait très bien la guitare. Et puis bon, il avançait. Un autre qui était responsable dit, ben viens dans la louange. On a pris la louange, on était un groupe de 10 personnes. Mais on était 10, mais les gens voyaient que ce guitariste. Pourquoi? Parce qu'il était comme ça avec sa guitare. Et il faisait des super solos magnifiques. Et tout le monde était focalisé, il regardait que le guitariste. Ils oubliaient tout le reste. Ils ne savaient même pas quel chant on chantait, ce qui se passait, quoi. Mais lui, alors, il chantait bien, il jouait bien, hein, c'était impressionnant. Mais on a dû lui dire d'arrêter s'il ne voulait pas changer d'attitude. Et au début, il n'était pas d'accord de changer d'attitude. Et on a dû le faire arrêter. Et il était très vexé, très fâché. Il a arrêté pendant une année ou deux. Puis au bout de 2 ans, il est venu me voir et m'a dit, tu avais raison. J'étais vraiment un idiot. J'avais une mauvaise attitude, j'étais très orgueilleux. Tu as bien fait de me faire arrêter. Dieu m'a parlé. Et maintenant, j'ai compris. Et après, il a recommencé avec une toute autre attitude. Mais certains, ben, c'est pas leur... ils n'ont pas une bonne réaction. Ils quittent même l'église. C'est terrible, mais je préfère ça. Plutôt que juste les garder pour faire plaisir. Mais leur attitude n'est pas juste. Et surtout dans la louange. Je ne crois pas que ce soit juste. Donc, soyez sages. Prenez des gens qui savent servir. Vous êtes là pour servir. Enseignez les principes d'adoration. Tout ce que je vous enseigne, j'essaye de l'enseigner à tous les musiciens. Et de leur dire, voilà pourquoi vous êtes là. Vous êtes là pour entrer dans la cible, pour être dans la présence de Dieu. Et votre instrument doit être un outil pour ça. Ce n'est pas un but en soi. Il faut que les gens s'approchent de Dieu et l'adorent vraiment. Travailler la musique, comme je l'ai dit, chaque instrumentiste ou musicien travaille tout seul son instrument. On n'a pas besoin d'être toujours ensemble. Donc tu joues de la flûte, tu joues de la trompette, tu répètes, tu apprends tes gammes, tu utilises... apprends à respirer, tu répètes ton exercice que tu développes. Et puis ensuite, travailler ensemble. Quand on a la répétition, bien on travaille ensemble, on se met d'accord. Il y a un responsable musical, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui dise les choses. Ok, là on va prendre ce rythme, là on va prendre ce tempo, attention la flûte pas trop fort, attention la basse, prends ce rythme, etc. On donne des directions. Vous n'êtes peut-être pas capable de jouer tous ces instruments, mais vous pouvez donner, là la guitare elle prend trop de place, là il faudrait que tu fasses ça. Et puis, on donne un cadre pour que ça soit bien organisé musicalement. Travailler le caractère. Dès qu'on travaille en groupe, nos caractères sont éprouvés. Justement, les réactions des uns et des autres. Si tu fais une remarque à quelqu'un, écoute, là, tu as chanté faux. Ah non, moi, je chante jamais faux. On chante toujours juste. Ben, je suis pas sûr. Je crois que tu t'es trompé. Écoute, écoute-moi. Écoute ta voix. Je vais t'enregistrer. Et tu vas voir. Il dit, ah non, je veux pas que tu m'enregistres, etc. Bon. Il faut accepter les remarques les uns des autres, c'est très important. Définissez les rôles clairement. Qui est le responsable? En Suisse, je sais qu'on aime tellement la démocratie qu'on dit comme ça. Oh, tout le monde est responsable. Mais ça ne marche pas. Dans la Bible, c'est Dieu a des responsables, il délègue son autorité. Donc c'est la théocratie. Dieu est chef, puis ensuite il appelle des hommes, il délègue. Dans la louange, c'est la même chose. Si tu n'as pas un responsable, ça ne va jamais marcher. Qui est le responsable du groupe? Ben, je sais pas, c'est chacun son tour, non? Dieu a appelé une personne à diriger le groupe, à être responsable devant lui, du groupe. Donc, pour le pasteur, pour l'église, qui est le responsable? Il faut que ça soit clair. Peut-être que tu peux avoir deux personnes. Tu peux avoir un qui est responsable spirituel et l'autre responsable musical. Ça peut aussi être très bon. Parce que le responsable spirituel, il n'a pas les capacités musicales. Il peut déléguer ça à quelqu'un d'autre. Donc, toi, tu t'occupes de travailler, de répéter. Puis moi, je gère les moments de prière et la direction du groupe. Ça peut être tout à fait faisable. Mais définissez bien les choses. Et puis, payez le prix de l'engagement. Ça, c'est dans toute l'église, dans tous les domaines valables. Mais quelqu'un qui veut venir jouer juste une fois, comme ça, oui, oui, je veux faire la louange, j'aimerais tellement que la louange soit différente dans l'église, j'aimerais jouer, etc. Je dis, ok, répétition, tous les 15 jours, louange toutes les semaines, on compte sur toi jeudi soir. Ah non, moi, je peux pas, tu sais, alors je viendrai une fois de temps en temps. Ça marche pas. Il faut que les gens s'engagent. 6 mois, 1 année, 2 ans, prenez des choses précises. Et ça veut dire, je compte sur toi. Bien sûr, si tu es malade, si tu as un problème au travail, on comprend une fois, deux fois, mais pas chaque fois. Hein? Donc, il y a un prix à payer. Le matin, le dimanche matin, il faut se lever plus tôt parce qu'il faut venir avant. Oh, mais non, tu sais, moi, j'aime bien dormir le dimanche matin. Je viens à 10h, c'est bon? Non, nous, on vient tous à 9h, tu viens aussi à 9h. « Ah, mais c'est tôt. Ben, on va faire 8h30 si tu préfères. » Non, non, 9h, ça va bien. On s'organise, on met des principes, mais il faut que les gens respectent. Et il faut rentrer là-dedans et c'est un prix à payer. Mais il n'y a pas de résultat sans sacrifice. Hein. Et dans la louange aussi. Maintenant, encore 2 diapos pour terminer. Conduire la louange avec les enfants. La question qu'on me pose souvent aussi. Comment il faut faire avec les enfants? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Moi, je réponds très facilement. Je dis que c'est la même chose que les adultes. Si vous amenez vraiment l'adoration, les enfants, ils vont le saisir, même encore plus vite que les adultes. J'ai remarqué, je l'ai constaté, je l'ai fait avec mes propres enfants, dans des camps, avec beaucoup d'enfants. Ce qu'il faut faire, c'est les amener devant Dieu. Si la louange, pour les enfants, c'est un alibi. Vous savez, à l'école du dimanche, souvent, les enfants, ils apprennent des chants qui sont des histoires. Alors, c'est bien, parce qu'ils apprennent les choses de la Bible. Mais il faut pas faire que ça. Il faut pas seulement leur raconter des histoires en musique, il faut aussi leur apprendre à adorer Dieu. Donc, si tu amènes des enfants devant Dieu, dis, voilà, Dieu est présent, on va l'adorer. Les enfants, très vite, ils sont heureux, ils sont conscients de la présence de Dieu et ils l'adorent. Donc, s'ils apprennent en tant qu'enfants, ça sera beaucoup plus facile en tant qu'adultes aussi, et ça va aider l'Église. Hein. Donc, moi, je pense que c'est bien de temps en temps d'avoir un groupe d'enfants ou que l'école du dimanche se rassemble. Tous les enfants vont aller dans une salle et on va adorer. Mais aussi d'autres fois avec toute l'Église. Il ne faut pas tout le temps les mettre à part. Hein. Il faut aussi qu'ils soient avec l'Église et qu'ils voient l'adoration et qu'ils soient mélangés à cette adoration et qu'ils participent à cette adoration. Donc, finalement, il y a des moments spécifiques, mais aussi, ils peuvent être joints à l'adoration globale. Il faut apprendre à communiquer avec eux. Bien sûr que si tu parles à des enfants, tu vas pas leur expliquer la transfiguration ou bien des modes dans des chants qui sont très compliqués. Hein. Il faut essayer de trouver des choses simples. Et il y a des tas de chants qui sont très simples. Adorons, digne es-tu Seigneur. Voilà, tu expliques qu'est-ce que ça veut dire être digne. Peut-être juste le mot, puisqu'ils ne le comprennent pas. Mais même louer. Les enfants, ils ont entendu louer une voiture, mais peut-être pas louer Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la différence, hein? On va pas louer une voiture, mais on va louer Dieu. Qu'est-ce que c'est la différence? Ben, louer Dieu, c'est lui dire qu'on l'aime, lui dire qu'il est grand, et voilà comment il est Dieu. Et puis, finalement, les enfants, ils apprennent. S'adapter à l'âge, c'est sûr que l'âge des enfants de 2 à 4 ans, c'est pas de la même chose que 12 à 14 ans. Hein, si vous prenez des chants de 2 à 4 ans avec un groupe d'adolescents, ils vont vraiment pas aimer ça. Ils vont pas vouloir chanter, ils vont pas participer. Donc certains chants sont adaptés. Alors, comme je l'ai dit, là, par exemple, on a fait un Jam Kids avec les chants pour les enfants. Ça peut être là-dedans que vous pourrez. Mais il y a aussi des très bons chants dans le Jam que les enfants peuvent chanter. Pas forcément tous. Mais moi, j'écoute ce que mes enfants écoutent et les chants qu'ils rechantent. Parce qu'ils viennent à la louange aussi. Ils participent au culte. Et il y a des gens qui chantent à la semaine, à la maison ou dans la voiture. Ils disent, ah, ce chant leur plaît. Ce chant, ils l'aiment. Donc, on va l'utiliser avec les enfants. Ça vient d'eux-mêmes. Il y a des chants qui nous semblent compliqués et que les enfants, ils trouvent très simples. Puis, il y a d'autres chants qui nous semblent adaptés qu'ils n'aiment pas du tout. Donc, il faut écouter et puis un peu sentir ce que les enfants aiment et l'utiliser pour les accrocher dans la louange. Louer Dieu en famille. Si un enfant n'a jamais loué Dieu à la maison et que d'un coup, à l'église, on lui dit loue Dieu, il va dire, mais c'est quoi ce truc? C'est bizarre. Hein? Mais s'il le vit à la maison avec ses parents, c'est normal de le vivre à l'église. L'église, c'est juste le reflet de ce qu'on devrait vivre. Donc, si vous chantez à la maison, vous lui dites, ah, me dit, oh, mais moi, je suis pas chanteur, je suis pas musicien, je sais pas chanter. Écoute, tu peux prendre un CD et puis faire chanter avec tes enfants. Ou tu, même si tu chantes faux, il y a personne qui va t'enregistrer, il y a pas personne qui va t'entendre, donc c'est pas grave. Les enfants, ils voient ton cœur. Hein? Et puis, des fois, c'est les enfants qui dépassent les parents qui chantent mieux qu'eux, mais c'est pas grave. C'est très bien même. Les enfants, ils se sentent valorisés s'ils arrivent bien à chanter et puis qu'ils encouragent leurs parents à chanter. Donc, n'ayez pas peur de chanter avec vos enfants, avec votre épouse, avec les enfants, les encourager. Ça va beaucoup les aider à comprendre la louange. Et puis, comme pour la louange des adultes, c'est pas un temps d'enseignement. Il y a l'école du dimanche sur 1 heure ou 2 heures ou 3 heures d'école du dimanche. Il y a un moment où on enseigne, où on lit la parole. Il y a un moment où on adore. Et mélangez pas tout. Parce qu'autrement, ils vont rien comprendre. Mais si vous dites maintenant, on va louer Dieu. Et vous avez l'occasion de vous exprimer. Et on peut faire des gestes, on peut danser. Et c'est super pour les enfants. Il faut les faire bouger, participer. Et ce qui est bien, c'est aussi d'appliquer ça dans le culte. Quand vous amenez les enfants louer avec les adultes, ça va aider les adultes qui sont un peu coincés parfois. Hein? Et les chants d'enfants très simples avec les gestes, ça aide des fois aussi les adultes à bouger, à rentrer dans l'adoration. Donc c'est très bien. Donc, ma conclusion pour les conducteurs de louanges et pour les jalons, soyez des adorateurs. C'est pas difficile de conduire des gens dans quelque chose que l'on connaît. Le chauffeur qui a fait 10 fois la route, pour lui, c'est pas un problème de conduire. Mais s'il n'a jamais été sur cette route-là, et que par contre, les gens dans le bus, ils connaissent la route, hein, il y aura un problème. Parce que le chauffeur, il va hésiter. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je dois ralentir ici? Mais les gens disent, mais bien sûr que tu dois ralentir, il y a un contour, attention. Mais bien sûr que maintenant, accélère, c'est droit, avance. Puis lui, il n'ose pas accélérer parce qu'il a peur de la route. Comprenez? Si on connaît le chemin. Donc celui qui conduit normalement, à part l'exception dont on a parlé, il faudrait qu'il ait un tout petit peu plus d'avance que les autres. D'expérience. comme quelqu'un qui enseigne. Si le prédicateur, il prêche les choses que tout le monde connaît déjà, ben, les gens ils vont déconnecter, ils vont dire, oh bon, on connaît ça, c'est bon. Hein? Ils avancent pas. Mais si on les enseigne sur des nouvelles choses, on creuse la parole, on explique, les gens se disent, ah waouh, j'ai appris quelque chose, j'avance, je comprends mieux, je peux appliquer ça dans ma vie. Donc dans l'adoration, connaissez l'adoration, expérimentez l'adoration et vous allez pouvoir conduire les gens plus loin. Donnez envie, encouragez, exhortez, c'est ce que je vous disais avant. Soyez pas là pour décourager les gens qui sont déjà découragés. Hein? On leur ajoute, oui, c'est vraiment difficile d'adorer. Ça fait vraiment 10 semaines que j'essaie, mais j'arrive pas. J'ai 6 problèmes qui... Non. Donnez envie, encouragez, exhortez. Nous sommes là, enfants de Dieu, touchés par le Seigneur. C'est notre occasion ce matin et notre opportunité, notre privilège de l'adorer. Louer Dieu, c'est un privilège pour les hommes droits, dit la Bible. Alors on va saisir ce privilège et on va le bénir ce matin ensemble. Voilà, ça a duré 30 secondes, mais avec ça, on peut chanter 1 heure. Et les gens vont le vivre, vraiment. Aimez Dieu de tout votre cœur, toute votre âme, toute votre force, comme Jésus a dit finalement. Hein? Les gens vont sentir si vous êtes passionné pour Dieu ou bien si vous faites un travail de fonctionnaire. Bon, c'est mon rôle, c'est mon tour de la louange. Alors on va chanter. Hein? Ça, c'est les fonctionnaires. Ils font parce qu'il faut faire, parce qu'ils veulent juste le salaire à la fin du mois. Puis là, même si vous n'êtes pas payé, vous êtes fonctionnaire dans l'esprit. C'est pas juste. Mais si vous aimez Dieu, vous êtes emballé par Dieu, enthousiasmé par Dieu, vous partagez votre amour pour Dieu aux gens qui sont là. C'est merveilleux d'être chrétien, de connaître le Seigneur. On a un privilège incroyable. Il y a des milliers de personnes qui cherchent un sens à leur vie, qui sont perdues, qui ne sont pas là. Et nous, on a la chance d'être là ce matin. On va louer tout notre cœur. Et prier pour que d'autres le connaissent. Et voilà, on se réjouit d'être avec lui. Et je vous invite à l'aimer avec votre corps aussi ce matin, pas juste avec votre bouche. Levez-vous, bougez, voilà. Mais après, je ne vais pas leur dire s'ils doivent s'asseoir, se lever, lever les mains. Je dis juste ça une fois, et c'est suffit. Et puis, vivez dans l'esprit, c'est une dimension spirituelle. Et des fois, on est trop dans le naturel. Hein? Donc, je vais donner plein de trucs naturels, humains, justes, sages, intelligents. En même temps, à un moment donné, quand je suis dans la louange, jeudi soir, on a répété avec les musiciens. J'ai donné la liste des chants. J'ai donné le programme. J'ai dit, c'est le chant, on va faire comme ça. Là, on va chanter en ré. Là, on va répéter. Là, on va faire ce rythme. Puis tout à coup, je suis dans la louange et puis j'oublie tout. Puis des fois, je rigole avec les musiciens. Dire, alors, ça, on a bien fait de répéter ça parce que t'as pas du tout fait ça. Hein, tu te souviens? Donc, parce qu'à un moment donné, je me lâche. Vraiment. Mais tout ce qu'on a appris, c'était une sécurité et c'était utile. Hein? C'est jamais utile. C'est la même chose. Une prédication, tu apprends, tu prépares, tu creuses ton texte. Puis quand tu vas prêcher, il y a des choses que tu vas dire, puis d'autres que tu vas pas dire. Il y a des choses que tu vas tout d'un coup oublier, laisser, puis l'esprit va t'en inspirer d'autres. Mais heureusement que tu t'étais préparé. Si tu n'étais pas préparé, tu n'aurais pas été aussi tranchant, aussi pointu. La préparation, c'est une plateforme. C'est un support sur lequel tu entres. Donc dans la louange, on se prépare. Mais à un moment donné, je dis, ok, maintenant, on dépose tout à Dieu. Seigneur, conduis-nous, inspire-nous. Et puis on y va, dans l'esprit, dans le Saint-Esprit, et puis on est conduit, et puis on change notre programme. Et souvent mes musiciens rigolent parce que j'ai toujours une liste, je suis un bon Suisse, bien préparé, j'organise bien les choses, toujours la liste de chants avec les numéros, la tonalité, tout est prêt. Mais dans la réalité, j'arrive jamais, jamais à faire tout juste. Donc si je joue au tiercé, je perds toujours. Hein. J'arrive jamais à trouver la bonne liste. Hein. Mais je joue pas au tiercé, hein, vous inquiétez pas. J'arrive jamais à faire ma liste, à faire tous les chants. Chaque fois, il y a un chant qui change, il y a un chant que je saute, il y a un autre que je reprends. Parce que dans la réalité, c'est ça. Dieu nous conduit autrement, il y a une autre réalité avec les gens. On répète un chant 2 fois, alors qu'on voulait le faire qu'une fois, et un autre, on le fait pas, et Dieu nous donne un autre chant, on va vite chercher le chant, puis on l'avait pas préparé, mais voilà, on le prend parce que c'est le moment de le faire, parce que l'Esprit a parlé, et c'est juste le faire. Donc c'est tout un défi de conduire la louange. Hein? Et c'est aussi un ministère, quand on voit ça, c'est pas juste choisir des chants au hasard. Hein. Comme je l'ai dit, il faut. Ça demande du travail, ça demande de l'expérience, mais je pense qu'on peut encore vraiment développer ce ministère et laisser de la place. Et dans la francophonie, il y a beaucoup à faire. Je sais que dans le milieu anglophone, on s'inspire souvent de ce milieu-là parce que c'est beaucoup plus développé que nous. Hein. Et parce qu'il y a beaucoup d'églises qui ont des musiciens à plein temps, des chants, des lévites qui sont payés pour ce travail-là. En francophonie, j'en connais peut-être 3 ou 5 qui sont payés vraiment pour servir dans la louange à plein temps dans leur église ou dans leur ministère. Donc il y a encore du travail à faire. Et je crois que si on veut que ça se développe, il faudra aussi soutenir ce ministère-là. Comme David a soutenu une tribu, les Lévites, ils étaient engagés pour conduire la louange, pour amener l'adoration. Et tout ça a permis de se développer. Les instruments, la technique, et avoir un tabernacle de louanges non-stop. Il a fallu payer le prix pour cela. Donc, je pense que ça va encore se développer, puis on a encore une marge dans ce domaine-là. Vous avez encore des questions sur ce sujet-là? On dira louange. Oui? Qui ça? Vas-y. Excuse-moi.
Je crois que cet exposé, on voit seulement le cadre sur les images ou le jour de la semaine où on a. Et par contre, il y a aussi d'autres rencontres circonstancielles qui nécessitent la louange. Je vais parler, par exemple, s'il y a un mariage, une autre cérémonie. Quelles sont les dispositions?
Bon, je pense qu'il faut s'adapter maintenant à d'autres situations. C'est vrai que j'ai parlé là d'une manière générale. Maintenant, moi, j'anime souvent la louange dans les mariages. Je tiens compte de du public qui est là. Si c'est un mariage chrétien avec que des chrétiens, si c'est un mariage avec les époux chrétiens mais la famille n'est pas engagée, ou si c'est un mariage avec un des époux qui est engagé et l'autre pas, donc ça change, hein. Des fois, c'est un peu particulier, en tout cas, les situations dans lesquelles je me suis trouvé. Donc, j'essaie d'être sensible. Mais je garde toujours à l'esprit que je vais amener les gens devant Dieu. Mais quelqu'un qui a des kilomètres de Dieu, qui connaît pas du tout Dieu, il va pas arriver d'un coup dans l'adoration. Donc, je vais prendre des chants qui interpellent, qui approchent, qui parlent de Dieu sans être directement au pied de Jésus. Par contre, si je suis avec un groupe, mais je demande aussi souvent aux mariés leur désir et aux prédicateurs dans quel sens tu vas prêcher. Moi, ça, c'est une chose que je ne vous ai pas dit. J'essaie toujours de collaborer avec les autres personnes qui interviennent dans le culte. Si un président, un pasteur, deux ou trois personnes qui ont le micro, où est-ce qu'on va aller ce matin? Combien on a de temps? Qu'est-ce qu'on va faire? Et j'essaie d'être en relation avec eux. Et je trouve que c'est bien si le président ou le pasteur peuvent être à côté de moi, tout proche de moi. Parce que justement, comme je t'ai donné l'exemple, quand le pasteur veut que je continue, s'il est assis à 3 mètres derrière, puis qu'il veut que je continue et je le vois même pas, ça va être difficile. Et je suis obligé de faire une annonce. Alors, on continue la louange ou on continue pas? C'est pas bien, ça, de dire ça devant tout le monde. Ça doit se gérer en interne. Donc, si je peux voir son regard ou voir son geste, il me dit, continue, ça va très bien. Donc, dans un mariage, j'essaie de bien me préparer à l'avance, savoir qu'est-ce que les mariés veulent, qu'est-ce que le prédicateur va faire, quelle est la durée. S'il y a beaucoup de non-chrétiens, j'essaie de les interpeller par la louange, prendre des chants peut-être d'évangélisation ou une certaine louange sans que ça soit toute l'adoration. Enfin, je me dis, je ne peux pas tout faire là. Mais j'espère qu'ils vont être interpellés et qu'ils vont peut-être venir à l'église pour une autre occasion. Donc, je tiens compte des situations. Mais comme je dis aussi, Dieu des fois nous dépasse et utilise même des soirées de louange pour toucher des inconvertis. Ils sont là et ils vont s'approcher de Dieu parce que vraiment notre adoration va les toucher. Donc, il faut être sensible. Il n'y a pas de schéma absolu pour chaque réunion, disons. Ça, le mercredi soir, on fait comme ça. Jeudi soir, on fait comme ça. Dimanche matin, on fait comme ça. Je crois qu'il faut être clair sur le but. Je sais que si je vais à une étude biblique, on vient à l'étude biblique. Donc, on va chanter un chant, on se tourne vers Dieu et après, on entend l'étude biblique. Et je ne suis pas frustré parce qu'on m'a laissé un chant. Ce n'est pas grave. Mais au soir, on va dire, ce soir, c'est une soirée de louange. On a prévu 2 heures pour la louange ou une nuit de prière. Donc, on va entrer dans la louange et puis on ne va pas prêcher. Donc, si quelqu'un se met à prêcher, je dis non. Là, on est à la soirée de louange, c'est pas le moment de prêcher, hein. Et on discute. Donc, faut savoir quel est le but de la réunion. Et puis, dans le cadre du but, bah, tu peux savoir où tu peux aller. Il faut que les musiciens soient bien expliqués là-dessus, en leur disant, ce soir, voilà ce qu'on fait. On va prendre 2 heures, on va prendre toute la nuit. Donc, tu as beaucoup de chants, tu dois bien te préparer, ou bien tu as juste 30 minutes au début, parce qu'après, il y a ça, il y a une conférence, il y a un témoignage, etc. Donc, être conscient du public qui est là. Et ça aide à choisir les chants et à donner la direction. Voilà. OK? Autre question? La question, c'est quand c'est qu'on mange, hein? Alors, on va s'arrêter là et puis on prendra cet après-midi. Bon appétit!